Debar Automobile, le spécialiste de l'importation de véhicules depuis 1996, présente
Sud Radio Rugby, François Trio.
19h03, merci de nous rejoindre. Nous suivons la Coupe d'Europe, enfin en tout cas ce qu'il en reste pour cette quatrième journée côté club français. Combien de clubs déjà? Trois, hein, je crois, ce week-end. Castres, hier, on l'a vécu.
Ouais, hein. C'est ça.
Clermont, c'est en ce moment en Ulster, et demain il y aura le Stade français.
Le Stade français, ce soir à La Rochelle, et demain à Montpellier aussi. Ah, trois clubs annulés plutôt.
Trois clubs annulés, bon, enfin bon, ça fait beaucoup.
Et trois clubs qualifiés.
Oui, voilà. Oui. Mais, bon, bref, en tout cas, Clermont doit gagner pour se qualifier. Ça, on va essayer d'être basique pour bien comprendre et pour être bien clair pour nos auditeurs, c'est ça Alexandre?
Oui, oui, il faut gagner pour gagner. Sinon après, il faudra rentrer dans des calculs d'apothicaire et c'est vraiment pas ce que veut Clermont.
Donc si je vous suis à 10 à 9 en Ulster après 32 minutes, ça pour l'instant, bon. Ils sont pas qualifiés.
Non, ils sont pas qualifiés, ah oui. Mais quand on voit le banc aujourd'hui de Clermont, on imagine que le plan pour l'instant est en train de se dérouler. En tout cas, ils font des choses précises. Les Clermontois, ils ont eu beaucoup de problèmes depuis le début de la partie. D'ailleurs, ils ont encaissé deux essais comme ça sur des possessions de l'Ulster dans les 22 mètres en se mettant à la faute en offrant des touches à 5 mètres et à chaque fois il y a eu des essais. Là maintenant ils arrivent à sortir de leur camp, c'est quand même une nouvelle étape franchie par l'ASM. Il y a 10 à 9, il n'y a qu'un seul point d'écart en ayant marqué 0 essai dans ce match. Donc on sent quand même que petit à petit, ça y est, Ravenil est en train d'être adopté par les Clermontois et c'est en train de se faire avec attention quand même la touche pour les Nord-Irlandais. Billy Burns, la passe elle est intéressante, attention l'accélération pour Michael Laurie, non il n'a pas pu être servi. C'était finalement James Hume qui est passé au sol. C'est une belle combinaison là autour de Angus Curtis. Et il y aura un ballon à venir pour l'ASM, Julien.
Oui, oui, non, mais c'est surtout quand même des Irlandais qui sont au bout de, on va dire, au rupteur offensif, parce que je les vois quand même balbutier leur rugby. C'est vrai qu'ils sont pas d'habitude dans un registre technique à être défaillant comme ils le font aujourd'hui. Et tant mieux pour les Clermontois. Il y a eu quand même des lancements avec des approximations techniques côté de l'Ulster. Et ça, c'est rare d'eux parce qu'ils aiment tenir le ballon, ils aiment construire. Ils travaillent beaucoup ces cellules-là à l'entraînement et l'efficacité technique, on va dire, des skills du jeu de main. Et là, aujourd'hui, c'est une opportunité pour Clermont. Et c'est pour ça qu'ils sont à un point juste derrière, les Clermontois, pour rester dans le match. Parce que cette équipe irlandaise n'est pas vraiment dans son grand jour.
Ouais, effectivement, on n'est pas tout à fait 100% convaincu par cette équipe nord-irlandaise. Attention, le ballon pour Tani Vili avec Tcherti Birgin qui était venu. La charge d'Olivier Tiraka jusque dans les 22 mètres. La percussion maintenant de la troisième ligne. Et Lucas Dessaigne, on change de sens. Morgan Parra pour Raka de nouveau qui a effacé un premier joueur. Un deuxième joueur, il est incroyable, Raka. Il faut maintenant de la continuité avec Parra. Ouais, il y a faute, effectivement. Monsieur Pierce qui donne un avantage. Le grattage limite là de. Ouais, grosse faute là, encore une fois, du Vermeulen, et ils souffrent, hein, les Nord-Irlandais, ils souffrent clairement sur les offensives clermontoises. Pénalité.
Ah oui, oui, dès qu'ils arrivent dans les 40 mètres de l'Ulster, les Clermontois, dans les couloirs surtout, ça se passe avec les ailiers, Raka, qui a mis sur les fesses deux défenseurs irlandais, mais et qui a pu avoir une avancée. Et c'est bien sûr pour calmer un petit peu les ardeurs clermontoises, une faute peut-être inutile, mais on a mis les mains dans ce ruck côté Ulster et on s'est mis à la faute. Et c'est encore une opportunité peut-être pour Morgan Parra de prendre les trois points. Ouais. Mais c'est ce que je dis, rentrer dans le camp irlandais et finalement réalisme, pragmatisme côté Clermontois, surtout avec ce match à l'extérieur avec une bonne défense.
Oui, et Clermont quand même plus consistant, on va dire, dans la lignée de ce qu'on a vu ces dernières semaines quand même. On sent que cette équipe qui a eu du mal un peu à démarrer sa saison est de mieux en mieux.
Ouais, c'est surtout pareil un peu dans ce match. En fait, elle résume ce que tu dis, François. C'est un début de match dur à se lancer pour eux. Ils ont pris cet essai, puis finalement, ils se sont rendus compte en tenant le ballon. Ils avaient des capacités à mettre à mal la défense de l'Ulster. Et à chaque fois qu'ils viennent dans le camp, ça fait 3 points avec Morgan Parra. Donc, les Clermontois passent à 12-10 à l'extérieur et la stratégie fonctionne.
Et elle passe. Et Clermont mène dans cette partie pour la deuxième fois avec un 4-4 pour Morgan Parra. J'étudie un petit peu cette équipe de l'Ulster. Sur le 15 titulaire aujourd'hui, il y a 6 joueurs appelés par Farrell pour le tournoi des 6 nations. Plus 1 joueur sur le banc, c'est Tom O'Toole. Parmi les titulaires, il y a Michael Laurie, le 15, le 14, Robert Balukun, le 13, James Hume, le talonneur Hoffman, Rob Herring, ça c'est une habitude, Kieran Treadwell en deuxième ligne et Nick Tominay en troisième ligne. Donc quand même il y a une bonne partie hein, de ce squad des 37 qui est sur le terrain aujourd'hui. Ils n'ont pas fait du tout l'impasse hein, les joueurs de l'Ulster aujourd'hui sur la rencontre face à Clermont. Enfin, de toute façon en Champions Cup à domicile c'est inenvisageable.
Enfin, on a rarement vu les Irlandais faire impasse ouais, hein, d'une manière générale, même avec le chauffeur de bus dans l'équipe.
Et pourtant qualifié, mais à domicile en Champions Cup c'est trop prestigieux pour eux. Avec Angus Curtis qui vient de récupérer une pénalité semble-t-il. En tout cas un avantage pour les Nord-Irlandais. Duane Vermeulen qui est vraiment suivi par Jacobus Van Tonder. Pénalité en faveur de l'Ulster. Coup de sifflet de Monsieur Pierce.
Ouais. Oh, chaque attaque quand même il y a des fautes de part et d'autre et beaucoup d'indiscipline dès que les équipes tiennent le ballon, qui mettent à mal dans les duels les défenses et puis qui récoltent des pénalités. Ça permet là encore une fois au numéro 10 Burns d'aller chercher une touche dans les 22 mètres clermontois. Et sinon, c'est à l'inverse, quand les Clermontois rentrent dans le camp de l'Ulster, ils se permettent avec Morgan Parra de d'enquiller sur un 4 sur 4, d'être à 12 à 10. Donc, comme je disais tout à l'heure, la stratégie fonctionne de côté Clermontois, c'est parce que c'est un match à l'extérieur, une qualif à jouer. Peut-être tenir le score et ce bras de fer pendant 60 minutes, et dès que le banc va rentrer, ça sera peut-être un autre match et on verra une autre stratégie.
Ouais, avec la touche trouvée.
Ouais, juste un petit point hand, rapidos, avec Quentin Cabanis.
Ah bah, ça n'évolue pas. Toujours 7 points d'écart entre l'équipe de France et l'Islande. L'Islande qui mène désormais 23 à 16 après 43 minutes dans cette partie.
C'est stable. Hein.
C'est stable. Ils nous maintiennent à 7 points. Voilà, les Islandais.
Attention, l'offensive des Nord-Irlandais, ils ont déjà marqué deux fois hein, sur ce genre d'action. À l'instant, il y avait Rob Herring, puis le relais de Marty O'Moore, et ça progresse hein, côté Nord-Irlandais avec maintenant l'international Kieran Treadwell. Rob Herring, de nouveau, il est au soutien cette fois-ci, mais il est impressionnant. Hein. Nick Tominay, on part dans le fermé, la bonne passe pour le 3 Carrel. Il est stoppé, Ethan McIlroy. Nathan Doak qui demande la pénalité, qui l'obtient auprès de monsieur Pierce. Doak pour Rob Herring de nouveau, mais je ne sais pas s'il va tenir 60 minutes le talonneur. Duane Vermeulen encore une fois, là il est bien refoulé, correctement renvoyé par Cristiano Jovan qui a pris la place de Rabah Slimani, et pénalité contre Clermont, carton jaune en plus contre les Clermontois. Alors il est adressé à qui ce carton jaune?
Raka
j'ai l'impression, ouais.
Dans ce ruck extérieur, oui. C'est une équipe de Ulster qui quand même avait des assauts dès qu'elle rentre dans les 22 mètres des Clermontois. C'est du jeu à une passe, des cellules construites, de la puissance de ses avants. Et après, il y a ce qui est intéressant, c'est qu'elle vient chercher le milieu de terrain, milieu des poteaux dans les 22 mètres Clermontois. Et elle a deux options, soit un renversement à jouer, et soit le sens, si ça sort vite ce ballon. Et c'est ce qui s'est passé. La défense clermontoise ne savait pas si cette équipe de Ulster allait jouer sens, renverser. Donc on casse un peu la défense clermontoise en deux, et finalement en jouant le sens, et bien elle a pu aller récolter cette pénalité.
Ouais, le carton jaune
il
est dur quand même,
c'est un peu dur quand même.
Il est vraiment dur le carton jaune pour Olivier Tiraquel. De nouveau une mêlée à 5 avec le groupé, ouais, et le groupé qui se forme. Et encore une fois hein, ça a toujours été là, les essais marqués avec Rob Herring qui est derrière un groupé qui a du mal à progresser. Une bonne défense de Clermont qui ne se met pas la faute pour le moment. Luc Pierce qui est prêt à partir. Attention Rob Herring, et l'essai marqué par Rob Herring. Le doublé pour le talonneur, l'international irlandais. Et encore une fois, hein, sur ce genre de ballon, c'est systématiquement essai pour l'Ulster. Un essai qui ne sera pas facile à transformer, 15 à 12 pour les Nord-Irlandais.
Ah ben c'est une arme fatale, hein, le mollet, surtout à 5 mètres. Si c'est bien construit, bien travaillé à l'entraînement, parce qu'on pense qu'on prend un ballon en touche, on descend, et puis on se construit, on pousse. Il y avait même l'ailier McIlroy, il me semble, qui est venu 2-3 quarts aussi. Mais c'est surtout construit, les poussées, les forces d'être bien bas, être puissant, pomper sur les jambes, un dos plat, et être surtout orienté ensemble dans la même force vers la ligne d'un but. S'il y en a un qui se délie, bien, il y a un défenseur qui passe, qui vient attraper le ballon. Donc c'est vraiment quelque chose de minutieux et un gros travail de longue haleine pour qu'on fasse des molles comme ils le font, cette équipe de Ulster. Et ils le font judicieusement bien. Et ils se servent de cette arme fatale depuis le début du match et depuis maintenant quelques matchs.
Ouais, et Rob Herring, il est assez intelligent pour démarrer quand il faut, c'est-à-dire quand quasiment tous les Clermontois sont venus un peu s'agglutiner dans le ballon porté. Et lui, il démarre et finalement, il n'a plus qu'un contre un à jouer. Et donc, il a un mètre à faire, il tend le bras et ça passe. Même si vous étiez un petit peu dubitatif.
Sur le moment d'aplatir, il a failli perdre le contrôle de la balle. Ouais, ça, c'est déjà peu de choses. Voilà. Mais il a réussi. il est expert hein, effectivement sur les départs de groupés à 5 mètres. Il est très très bon en Robbering de toute façon hein, depuis maintenant pas mal de saisons avec l'Ulster. La transformation est plus facile celle-ci. Elle passe pour Nathan Doak, 17 pour l'Ulster, 12 pour la SM Clermont-Auvergne. Un joueur qu'on a beaucoup vu aussi, c'est Angus Curtis hein, depuis le début du match. Angus Curtis qui est le fils d'un certain David Curtis, un ancien international irlandais, international aussi de cricket. Voilà.
D'accord.
Que je viens de découvrir ça. 17 à 12 à la mi-temps.
Oui, je crois David Curtis, c'est un comédien, non? Il me semble aussi.
Aussi, hein, oui.
C'est, bon, enfin, ouais, c'est 17-12, voilà. Moins 5 pour les Clermontois. C'est la mi-temps, bien sûr. Il y aura pas mal de choses à dire. Voilà. Trois essais quand même encaissés par les Clermontois qui n'ont inscrit aucun. On va faire le point de tout ça. Juste peut-être quand même l'analyse globale de Julien, un peu générale sur ce qu'on a vu. Pour l'instant, les Clermontois sont dans le coup, mais là, c'est vrai que la dernière action elle est assez symptomatique aussi de ce qu'on a vu sur les 40 premières minutes, c'est-à-dire des Clermontois qui sont quand même bousculés, toujours par ce fighting spirit. C'est un peu un cliché journalistique et populaire, mais c'est vrai quand même que tout ce qu'ils font, il y a une telle détermination.
Précision, que,
Et puis quand même, à chaque fois qu'ils prennent le ballon, c'est vite, c'est tranchant, ça secoue quand même en face, hein, voilà, quelle que soit l'action effectuée. Hein.
Ah, c'est ça, c'est exactement ça. L'équipe d'Ulster qui a un peu tombé de ballon à loin de la ligne d'un but clermontoise. Par contre, dès qu'elle rentre dans les 30 mètres, c'est efficace, ça tient le ballon, c'est des cellules, ça joue dans le dos, ça va chercher des couloirs dans le jeu des trois quarts et ça récolte des pénalités. Une équipe de Clermont très indisciplinée qui permet justement d'aller chercher des pénal-touches côté Ulster et c'est l'arme fatale qui, depuis le début du match, met à mal le paquet clermontois avec ses molles et qui permettent d'être devant au score côté irlandais. En revanche, côté ASM, il y a eu quand même des choses très très positives, c'est-à-dire une défense agressive, venir ralentir le jeu peut-être irlandais de Ulster. Et quand elle rentre dans les 40 mètres, en tenant le ballon, elle a trouvé des solutions pour mettre à mal cette défense et récolter des pénalités. Même s'il n'y a pas eu d'essai, eh bien, elle est présente avec le coup de pied de Morgan Parra, qui est en pleine réussite en plus et qui est un bon leader dans cette première mi-temps. La stratégie, comme je disais, peut être efficace avec le banc qui rentrera.
Moins 5 en un mot, ils s'en tirent bien ou pas les Clermontois après ces 40 premières minutes?
Ouais, c'est dommage ce molle juste avant la mi-temps qui leur met un petit coup au casque, mais sinon ils sont dans le match, hein. Moins 5 c'est rien du tout, hein. Ça va vite, hein.
Ouais, et on rappelle quand même qu'il faut la victoire pour se qualifier dans cette Champions Cup. Voilà, on va revenir dans un instant sur Sud Radio pour faire le point sur toute l'actualité sportive et notamment sur le hand avec les Français qui affrontent l'Islande en ce moment. Restez avec nous.
Sud Radio Rugby, François Trio.
Avec vous les auditeurs Sud Radio pour vivre cette soirée sportive. L'Ulster qui reçoit Clermont est mené 17 à 12 à la mi-temps. Clermont qui débutera la deuxième période à 14 encore pendant 7 minutes hein, puisqu'il y a eu un petit carton jaune pour Raka. Trois essais encaissés par les Clermontois. On va revenir aussi sur cette journée de Coupe d'Europe. On rappelle la défaite sur tapis vert des Toulousains qui ne sont pas encore qualifiés. Tiens, d'ailleurs, je crois qu'il y a un match qui les intéresse, c'est celui de Clonakry face à Bristol, si ma mémoire est bonne. Est-ce que...
Antoine Mazer.
C'est Antoine Mazer.
Oui, entre les Scarlets et Bristol, le score est toujours de 14 pour Bristol, 13 pour les Scarlets. On rappelle que c'est avec le bonus offensif qu'il faut que s'impose les Scarlets et pour le moment, ils n'ont marqué qu'un essai dans cette partie et Bristol a marqué deux essais, dont Semir Adrada.
On surveille bien sûr, voilà, on rappelle qu'il faut que Clonakry l'emporte face à Bristol avec le bonus offensif, mais il y a aussi un autre concurrent, ça peut être les Wasps ou le Stade Français qui doit aussi faire la même chose, c'est-à-dire qu'il y a deux conditions sur trois rivaux pour que Toulouse soit éjecté des huit qualifiés de cette poule B, ce qui serait quand même le pompon après ce qu'on a vécu. On va revenir aussi sur l'élimination hier du Castres Olympique, quand même, parce que ça a été un petit peu limite, là, ce qu'on a vécu, on l'a vécu sur l'antenne de Sud Radio. Élimination 36-33 au Harlequins, et tout s'est passé dans les derniers instants. On va d'ailleurs écouter un peu ce que vous avez vécu hier, Alexandre, à l'antenne, ouais. Avec notamment un de nos consultants, Julien Thomas.
Est-ce que le rugby français dérange à l'heure actuelle Est-ce que avec les décisions par rapport à Toulouse aussi, là les Castrés qui se font voler, parce que là c'est un vol honnêtement, je le dis, parce que quand on voit les rugs d'avant et puis l'essai qui n'est pas valable, c'est quand même voilà, contestable. Et bon, et surtout, est-ce que dans les instances on prend pas le pouvoir au niveau anglo-saxon et que les Français, au vu de la performance de notre équipe de France, dérangent et commencent à poser problème et fait peur. Je le ressens comme ça et ça m'attriste parce que c'est pas le rugby, quoi.
Oui. Julien,
Mike Adamson hier,
24 heures après, vous maintenez ces propos ou alors vous avez revu les images et effectivement, M. Adamson, bon, peut-être que sur la façon d'aplatir, il y a peut-être des choses à redire. Mais enfin, dans les rucks, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Raizuke, il est rentré sur le côté, là, il était pénalisable quand même.
Non, mais c'est vrai qu'on était dans le moment du match, mais honnêtement, c'était le tout du fait du week-end qui, par rapport aux Toulousains, par rapport
à. On rappelle que Castres devait l'emporter pour se qualifier. Hein.
C'était avec le bonus. Et c'était le cas à la 85e. Ouais.
C'est ça. Et qui était devant à la 80e. Ils étaient encore devant et puis qui pouvaient se qualifier. Mais quand on parlait juste avant de l'EPCR qui mettait des matchs perdus pour Toulouse et l'instance un peu amateurisme que provoquait cette EPCR, du coup, derrière ce match, et puis pour moi, je pense qu'il y avait une belle défense castraise, pardon, et l'essai qui était limite, surtout que les assistants et puis terrain disaient il n'y a pas essai, qu'il a redemandé la vidéo, qu'il accorde. Mais
il fallait trouver une image qui prouve l'essai.
Qui prouvait l'essai après, et que franchement, et qui accorde et qui fait perdre Castres, qui pouvait se qualifier. Honnêtement, c'était très, très dur. Et en plus, le match que font les Castrés, encore une fois, c'était remarquable. Donc oui, j'étais vraiment sur. Honnêtement, j'avais les nerfs. Et c'est un peu ce côté de l'injustice qui m'a un peu fait monter.
Mais vous avez parlé vrai.
Je rappelle que Castres a joué les 4 matchs.
Exactement, j'ai parlé vrai, mais je le maintiens le fait que par contre, je maintiens le fait que côté anglo-saxon et comme on disait en avant-match de Clermont tout à l'heure dans notre émission Sud Radio. Que autour de la table dans la direction, très peu de Français et ils ont ce pouvoir directoire qui fait des paroles de ce côté britannique et qu'on n'a pas trop notre mot à dire en fait côté français.
Et ça fait 25 ans que ça dure en Coupe d'Europe mais oui, mais et un siècle un problème, voire plus que ça dure au niveau du tournoi des Nations. Et on va dire, on va pas trop le modifier. La meilleure des réponses finalement, c'est d'être souverain sur le plan sportif, c'est ce qu'a souvent fait
d'ailleurs le Stade Toulousain
en Coupe d'Europe, hein, en gagnant pas mal de trophées. Et puis, c'est ce que peut-être ne fait pas Castres, qui peut-être n'a pas non plus fait de cette compétition une priorité.
Je ne suis pas d'accord avec ça. Je trouve qu'ils ont mis à chaque fois l'équipe qu'il fallait. Ils perdent au maximum de 6 points. Alors, ils font 4 défaites,
bonus, hein.
Mais ils prennent à chaque fois le bonus défensif et parfois offensif, là, comme c'était le cas hier. Il tombe, le tirage il est terrible. Harlequins Munster, vraiment le tirage est catastrophique.
Prendre défensif pour Munster, c'est quand même déjà une performance.
C'est ça, à l'aller face au Harlequins, ils estiment eux s'être fait voler après le coup de sifflet final, ils perdent 20-18. Au Munster, il y a pas grand-chose à dire, ils perdent de 6 points, mais ils font un match assez héroïque à domicile face au Munster, il y a eu quelques décisions. Là, celle-ci hier, elle est étonnante parce que si je parle sous le contrôle de Quentin Cabanis qui écoutait hier Mike Adamson dans l'oreillette qui disait Mike Adamson, donc il devait trouver une image pour prouver l'essai. Il dit, moi je ne vois pas l'image, mais pour moi c'est entre deux images qu'on le voit aplatir, mais du coup on l'a pas.
Il dit pour lui, alors c'est le mot final hein, de Monsieur Adamson, c'est je ne vois pas d'écart entre la ligne et le ballon, donc pour moi il y a essai.
Oui, mais voilà. Il y a une façon de voir d'autres images derrière les images. Et c'est ça aussi l'arbitrage vidéo de nos jours. Tiens, Quentin Cabanis, puisque vous avez parlé, eh bien vous allez nous donner quelques nouvelles. Des handballeurs,
vous êtes sûr
l'euro.
Est-ce que vous êtes sûr d'avoir envie d'avoir des nouvelles
oui,
de nos petits Français hein, qui est resté sur deux succès hein, dans ce groupe I pour l'euro. Et ça se passe pas très bien pour les Français face à l'Islande. Ils sont menés à la 57e sur le score de 28-21. Donc les Français vont s'incliner contre l'Islande. Là, c'est fait parce que remonter 7 buts en 3 minutes, ça paraît improbable.
Voilà, ils n'ont pas vu le jour, nos handballeurs. Il y avait quand même des problèmes avec pas mal de forfaits.
L'entraîneur notamment.
L'entraîneur entraîneur, mais c'est pas lui qui joue, mais enfin c'est lui
Quentin
qui
est Quentin Mahé, Fabregas.
Et non coaché, Fabregas, Quentin Mahé, bref, des joueurs clés quand même de cette équipe qui n'étaient pas présents. 21-28, donc pour l'instant, il reste quoi, combien de temps,
2 minutes 20 exactement.
2 ouais. minutes 20,
ben c'est perdu.
Voilà, on peut dire que c'est perdu, mais il y a encore une possibilité de se qualifier pour les demi-finales en battant le Monténégro. Je crois que c'est lundi le match. Tiens, d'autres résultats peut-être dans l'actualité sportive.
À noter la victoire de Brest en Ligue 1 dans un match comptant pour la 22e journée face à Lille. 2-0 avec un but contre son camp de Adjalo, le défenseur lillois, et un but sur pénalty de Mounier à la 95e. À 21h, Lens reçoit l'Olympique de Marseille pour la Ligue 1.
Voilà, il y avait également dans l'actualité du tennis aussi ce matin avec des Français et des Françaises qui sont toujours là, Alizé Cornet, je crois.
Et exactement, et un Français qui va jouer cette nuit, François, c'est un match à ne pas rater entre Manarino et Rafael Nadal. Ce sera pour les huitièmes de finale de l'Open d'Australie et ce sera à 5h du matin. Il faut mettre son réveil, mais ça peut valoir le coup.
Oui, 5h du matin, effectivement. Alizé Cornet aussi qui s'est qualifiée, qui est impressionnante.
Simone Alep.
Ouais, ça a été un peu plus compliqué maintenant, mais elle a été quand même assez impressionnante. Et il y a eu l'élimination de Benoît Paire aussi cette nuit par Stefanos Tsitsipas, mais avec les honneurs, il a pris un 7 encore une fois.
Parce que ce matin, il a été éliminé à 10h ce matin.
Oui, à 10h.
Voilà,
oui,
mais ça dépend. Ouais. Peut-être que vous êtes décalé. Moi, peut-être que vous êtes un clubbeur, Alexandre Priam. Et
là, j'aime le sport de nuit.
Voilà, non, mais alors, vous non, étiez en rave party.
Je précise bien le sport.
Je me suis mal exprimé.
Le sport américain, pardon. Je me suis mal exprimé. Il y a un autre match en cours, c'est Gloucester-Perpignan pour une qualification. Ah bah oui. Ça se passe pas très bien pour les Catalans qui sont menés 35-12 à la mi-temps.
Bon, c'est dit. Je crois que c'est dit. Ouais. Allez, on se retrouve dans un instant pour la suite de notre soirée Coupe d'Europe. Ulster, Clermont, toujours 17-12, c'est la mi-temps. Les joueurs qui vont revenir sur la pelouse de Ravenhill et sur l'antenne de Sud Radio, restez avec nous.
Debar Automobile, le spécialiste de l'importation de véhicules depuis 1996, présente...
Sud Radio Rugby, François Trio.
Avec vous les auditeurs Sud Radio, amateurs de sport et de rugby, pour vivre la quatrième journée de Champions Cup. Clermont qui est en déplacement à Belfast, à Ravenhill, en Ulster. Les Clermontois menaient 17-12. Julien Thomas, Alexandre Priam. Ce match qui est un bon match de Coupe d'Europe, qui est encore... on va dire dans les cordes de Clermont, mais attention, Clermont est à 14, Alexandre.
Ouais, Clermont à 14, effectivement, avec le carton jaune de Raka juste avant la pause, 17-12, pénalité d'ailleurs pour la SM à l'instant. Clermont qui doit s'imposer aujourd'hui pour ne pas rentrer dans les calculs d'apothicaire en vue de ses huitièmes de finale. Il y a seulement 5 points de retard et un très gros banc côté SM. Fourcade, Bibi Bibiziou, Ojovan, qui est déjà rentré d'ailleurs, Van Maïna, Fritz Lee, Kevin Vianar, Kémy Lopez et Damien Penaud. Est-ce que Clermont peut le faire, Julien? On l'avait vu à l'aller, Clermont est mieux en seconde période. Est-ce que tu vois Clermont monter
au niveau? Oui, bien sûr. Clermont qui a l'expérience de cette Champions Cup, qui a depuis des années figure parmi des favoris et surtout des phases de finale. À l'extérieur, elle a les armes pour aller, notamment avec ce banc, comme tu parlais, Alexandre, les armes pour aller chercher la victoire. Juste 5 points d'écart. Il faut te serrer les dents, là, je pense qu'ils vont laisser des plumes pendant ce carton jaune de Raka. Mais si elle tient la dragée haute jusqu'à la 60e et qu'il va y avoir du coaching et du sang frais, il y a de quoi aller chercher une victoire. Hein. Est-ce que vous saviez, messieurs, que Clermont pouvait finir quatrième?
Bien sûr, si, mais on ne disait rien pour l'instant. On était discrets.
C'est pour ça. Mais bon, j'en ai anti tout espoir. C'était, il fallait qu'il s'impose, mais surtout, il bénéficie des défaites du Leinster. Bon, au moins, ça s'est réglé.
Ils ont mis 60 points à Basse. Mais en deux matchs, ils ont mis 140 points.
Ouais, après Montpellier, ils sont allés gagner 64-7 à Basse. Ouais. Donc, le Leinster, c'est monstrueux. Quand même.
Ouais, c'est inquiétant, ouais. Effectivement. A priori, ils n'ont pas apprécié de perdre 28-0, je crois, puisque derrière, ils ont mis 70 points de moyenne sur les deux matchs suivants. Le ballon pour l'Ulster, et ils commencent à jouer de leurs 40 mètres, parce qu'ils sont déjà qualifiés, hein, les Ulstermen, avec Baloukoun qui passe au sol. Doak pour Duane Vermeulen, qui est très puissant. Hein, il est impressionnant aussi, lui, ballon en main. Un peu moins capillairement parlant maintenant. Mais ouf, terrible bouchon là sur Michael Laurie. Terrible double bouchon de la part de Johan Berry-Garay. Il est venu s'offrir à Michael Laurie le petit cadeau. Ça fait toujours plaisir. Il était visé, clairement, le ballon pour les Ulsterman qui, du coup, vont plus proposer de jeu, là. Je pense que ça leur a servi de leçon. Ils vont dégager avec Nathan Doha qui trouve une bonne zone, qui met un peu la pression sur Tjerti Berger, qui nous avait été annoncé depuis plusieurs saisons par notre ancien consultant Benjamin Kaiser comme une référence, comme un futur très bon joueur, et il confirme cette saison. Matsushima ne manque pas tant que ça à la SM Clermont-Auvergne. On rappelle, il ne peut pas jouer parce que pas vacciné. Même cas pour Georges Moala qui n'est pas sur la feuille de match aujourd'hui. Le ballon récupéré là, in extremis, par lui aussi un joueur qui est impressionnant depuis quelques matchs, c'est Judikel Kankorié,
capitaine.
Mais franchement, on a changé de capitana quand même à Clermont. On est passé d'Ituria à Kankorié, et Kankorié a pris une nouvelle dimension, j'ai l'impression. Très étonné d'ailleurs de ne pas l'avoir vu appeler. Je m'imaginais pourquoi pas appeler pour travailler en vue du tournoi de destination. Il n'est pas dans la liste des 42, seuls 3 Clermontois y sont: Daniel Bibiziou, Tani Vili et Damien Penaud, qui est sur le banc avec l'accélération de James Hume. Lui, il est appelé par l'Irlande et il s'est relevé, mais faute signalée par Luc Pierce. Pénalité contre Clermont, encore une fois, une pénalité à l'encontre des Clermontois.
Et à l'encontre des Clermontois, surtout que là, la reprise de 5 minutes,
c'est la 9e.
17-12, face au poteau, 3 points de plus, ça fait 22. Il y a un break qui commence à se créer, là, et ce carton jaune, donc côté Clermontois. Là, cette équipe de Ulster commence à mettre un petit peu la marche en avant, à essayer de tenir le ballon, mais avec une belle défense quand même, comme on a vu tout à l'heure, du talonneur Berry-Garay.
Pardon, carton bleu, quel plaisir.
Du talonneur Clermontois, ça sera mieux. Allez, quand c'était Kaiser, c'était plus facile.
Mais visiblement, non, Julien n'a pas fait basque première langue.
Ouais. Exactement, merci François. Non, mais tout de même, c'est quand même une équipe clermontoise qui est dans le match depuis le début, parce que défensivement, elle est, je pense, très efficace dans les duels, les plaquages, elle monte fort, elle va chercher.
Ouais, mais attention, le score, il grimpe. Le score, il grimpe. La pénalité, elle passe, là, 20-12. Hein.
Oui, mais défensivement, elle met la faute. Cette équipe de Ulster, qui, elle, est très offensive, donc elle coupe son jeu. Par contre, dès qu'elle doit défendre par les assauts, là, elle se met à la faute par l'indiscipline des rucks, voire.
Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça veut dire qu'il faut miser sur la conservation côté. Oula, il y a un monsieur en tribune là devant John O'Gibbs, il est bien attaqué. Hein. Oh, il y avait un monsieur, je ne suis pas sûr qu'il voit grand-chose du match. Il regardait beaucoup son verre. A priori. Mon Dieu, ah, il était fatigué. 20-12 à la 47e.
Quand même de cette équipe du Cerf, 60%, 40 ASM. Du coup, ils prennent des assauts au fur et à mesure des phases de jeu multipliées par les Irlandais, et ils se mettent à la faute. C'est un peu les mots qu'ont les Clermontois dans ce match. Et du coup, ça crée mais soit un carton jaune à faute de répétition, comme tout à l'heure au Raqqa, soit des points qui créent le large un petit peu maintenant avec cette équipe du Cerf, qui elle aussi, dès qu'elle arrive, est très, très efficace dans les 22 mètres de Clermont.
Ouais, et le ballon toujours pour les joueurs de l'Ulster, hein, toujours des longues possessions. C'est toujours le cas avec Rob Herring qui vient d'être à la charge. On parle de 60% de possession, hein, pour l'Ulster dans cette partie. 48e minute de jeu avec Vermeulen qui lui aussi est difficile à mettre au sol. Mais le ballon est toujours pour les Rouges avec la charge des avants. Mais bon travail défensif de Johan Berry-Garay, Doak pour Billy Burns, qui prend peu de risques. Hein. Michael Laurie, souvent deuxième ouvreur, lui qui est formé à l'ouverture, Michael Laurie qui est appelé à l'arrière avec le 15 du trèfle. La charge là de la part des avants. James Hume qui était au contact. Billy Burns, attention, avec Adrien Vermeulen, là, ça joue bien côté Ulster, là, c'est impressionnant. Michael Laurie, il a pris deuxième tampon.
Sans
interdit, là. Ouais, ça fait deux fois. Michael Laurie, ils veulent pas le voir jouer avec l'équipe d'Irlande, mais quelle séquence imprimée quand même par l'Ulster. Doak avec Burns. James Hume, pardon, qui vient récupérer le ballon. James Hume qui libère. On change de sens. Doak, Burns avec avec Michael Laurie qui a pu se relever pour adresser un petit coup de pied à suivre. Michael Laurie et la pression sur les Clermontois, toujours à 14 contre 15 jusqu'à la fin de cette séquence. Le ballon qui reste dans le terrain. 20-12 pour l'Ulster sur Sud Radio, la 49e. Ouh, il a perdu un petit peu ses appuis là, Billy
toujours
Burns.
20-12, hein.
Ouais, 20-12 effectivement. comme je viens d'instant de le dire.
Ah ouais, 20-12. Ouais.
20 à 12 effectivement. La charge de Nick Tomine, attention, il est stoppé devant les 22 mètres. Doak, lui aussi refoulé. Il y a des tampons terribles là de Vili. La part de la Tani Vili, de la part de la défense de Clermont, avec la charge de la première ligne, avec notamment Robering au déblayage. Le retour intérieur feinté de Billy Burns, il est soulevé, il a pu quand même servir ses avants et ça tape toujours très fort. Pas de faute clermontoise, il faut continuer dans ce sens-là avec Doak pour maintenant Marty Moore qui passe au sol. Cinquième phase de jeu sur cette séquence précisément, mais ça fait maintenant 3-4 minutes que le ballon n'a pas été stoppé, n'est pas sorti de l'aire de jeu. Doak toujours devant les 22 mètres avec l'offensive. Oh. Attention, ça part dans le fermé. Michael Laurie, peut-être pour encore un essai. Non, il est stoppé à un mètre de l'embut. Michael Laurie, attention à lui. Et encore une fois, c'est venu d'une accélération de l'arrière de l'Ulster. Avantage en cours sur cette zone de marque. Peut-être pour un carton jaune. Et l'essai marqué par Luc, signalé par Luc Pierce. Et c'est un essai pour le, pour Duane Vermeulen, je crois. Si je ne me trompe pas, est-ce que c'est bien Duane Vermeulen qui a marqué cet essai? Il me semble.
Oui, il me semble bien.
Il me semble effectivement. Et c'est.
Dans le couloir gauche. Ouais,
c'est bien lui.
Kengo. Ouais, c'est bien lui, Vermeulen. Quel joueur. Quel joueur, Vermeulen. Tu disais qu'il avait perdu les cheveux, mais alors il est efficace.
Il va plus vite, hein, du coup.
Il est présent, parce que là, il y a eu, si on compte bien, il y a eu 9 phases de jeu sur le coup de pied des Clermontois qui ont dégagé. Mais avant, il y en avait eu 12.
Et Michael Laurie, il a encore fait un.
Incroyable.
Il a encore traversé la défense.
Ils ont imprimé là, les Irlandais, cette équipe de Ulster qui a mis vraiment. Alors, la défense a été, pour une fois, efficace parce que ce n'est pas mis à la faute de côté clermontoise. Mais alors, ce rythme imprimé que veulent cette équipe d'Ulster qui essaye de vraiment mettre à mal, parce que l'alternance, elle est magnifique. Un coup, on joue en renversement, un coup, on joue autour du 10, un coup, on joue de large, on balaye le terrain et on essaye de manipuler la défense clermontoise. Là, l'Ulster, ils viennent de mettre un essai qui est remarquable. Essayer de sur un pick and go à 1 mètre de la ligne côté gauche dans le couloir avec Vermeulen, sa puissance qui est allée marquer. Mais le tempo imposé, là, c'était vraiment impressionnant.
Ça se complique et quand même.
Ulster. Ouais, ah, là, ça se complique. Il y a le bonus hein, pour l'Ulster. Bon, ça n'a pas changé grand-chose. Quoique, quand même, pour être dans les 4 premiers, c'est important. Pour les Ulstermen, 25 à 12. Ouais, ça commence à être complicado. Là, bonus, et la tentative de transformation. Oui.
Avec cet essai bonus.
Oui, effectivement, oui, y a du bon monde en tribune du côté de Ravenhill avec la transformation pour Nathan Doak. Elle passe entre les poteaux, magnifique cette transformation, ça fait 27-12. Ouais, là, ça commence à être compliqué, là.
Ah, là, ça commence à créer le break. Ouais, 27-12.
15 points de retard.
Raka qui revient sur le terrain, donc 15 contre 15 numériquement. Et puis surtout, l'Ulster qui.
Ça fait 15 points encaissés sur le carton jaune. Enfin,
C'est efficace. Dès que, c'est efficace.
17 points encaissés sur le carton jaune.
Surnombre offensif, bien sûr. C'est, et Penaud qui rentre.
Ouais.
Donc, on commence à avoir un coaching. Ouais, un coach. Le coaching de John Gibbs.
Et déjà le bonus pour l'Ulster. Hein. 4 essais encaissés. Essais, ouais. Voilà, 0 marqué pour l'instant par les Clermontois. Bon, est-ce que ce changement, là, Damien Penaud qui rentre, est-ce que ça peut être un nouveau départ pour les Clermontois? Parce qu'il va falloir quand même se réveiller. Là, il y a quand même maintenant moins 15 pour les Clermontois. Hein.
C'est exactement ça, François. C'est qu'ils peuvent se réveiller du fait que peut-être la puissance, la stratégie avec de la fraîcheur, comme on disait, du banc, avec ces joueurs d'expérience. Par contre, moins 15, mais.
On met
en confiance quand même l'équipe de Luster. Il fallait tenir le bras de fer et rester proche au score. Là, ça aurait été une stratégie payante.
Ouais, mais c'est des stratégies à risque, je trouve, parce que souvent, les coachs, ils, entre guillemets, mettent les meilleurs joueurs sur le banc, mais il faut que ça se passe bien, parce que quand tu rentres et que tu es à moins 15, que tu sois international ou pas à Ravenhill, il n'y en a pas beaucoup qui ont gagné avec moins 15 dans la musette.
Tu fais sortir Tani Vili. Ouais. Donc tu fais sortir un autre homme fort. Donc.
Et tu encaisses cet essai juste avant la mi-temps, donc déjà tu prends un coup sur la tête, un coup de barre derrière la nuque, côté clermontois, et je pense que, enfin après c'est un avis personnel, à la 55e c'est un peu tard, il aurait fallu 5 minutes après la mi-temps commencer à peut-être faire le turnover, amener de la fraîcheur petit à petit côté John O'Gibbs, et justement avant d'encaisser cet essai, peut-être amener du sang frais et fort et d'expérience.
Ouais, le ballon toujours pour les Clermontois, malgré la petite perte de balle là, de Damien Penaud sur sa première percussion, qui a quand même gagné son duel. 27 à 12, 53e minute de jeu sur Sud Radio, l'offensive pour les Clermontois avec Cherty Berguien qui est retourné et ballon rendu au joueur de l'Ulster. Attention, en défense, il commence à prendre le pas, hein, les Nord-Irlandais. Et le coup de pied de James Hume jusque devant les 22 mètres de Clermont. Il y a de pression et il va pouvoir qu'est-ce qu'il fait Damien Penaud? Damien Penaud, il est en train de partir un peu en sucette là, et il a choisi de la jouer tout seul, mais il a hésité longtemps avec Morgan Parra pour Jedrasia qui a failli commettre un en avant. Le ballon toujours pour les Clermontois dans leurs 40 mètres, il n'y a pas d'en avant signalé. Le petit jeu au pied par-dessus, oh, pourquoi pas, avec le rebond pas favorable à Jean-Pascal Barak. Luc Pierce qui ne signale rien, terrible contact là de Raka sur Laurie. Michael Laurie, il va pas bien dormir peut-être, parce qu'il vient de se prendre un raca plein visage encore une fois. Rob Ehring avec cette première ligne qui se met en marche, et notamment le relais d'Eric O'Sullivan. On repart dans le ferme, attention, il y a 4 contre 2 à jouer avec Michael Laurie justement qui n'a pas été servi. C'était la percussion de Rob Ehring. On change de sens avec Doak pour et maintenant c'est Marty Moore qui libère. Doak toujours, Billy Burns avec la deuxième ligne qui se met au relais. Kieran Treadwell à 30 mètres face au poteau. L'Ulster qui continue d'imprimer un très gros rythme. Le jeu pied cette fois-ci complètement manqué, il est vilain. Et le ballon rendu au Clermont.
La rosette, c'est la fameuse rosette de Burns. La diagonale direct en touche, alors que s'il avait tenu le ballon, je pense offensivement il y aurait eu quelque chose à faire extérieur. Il a tenté cette diagonale pour son ailier. Mais là, j'ai l'impression que les Clermontois sont en train de sortir du match. Hein. Honnêtement, je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais ils sont en train de relancer les ballons un peu
plus que secouer, là. Hein.
Ils se font secouer, ils essayent des petits par-dessus dans leurs 30 mètres. Et là, derrière, à ce niveau-là, ça va. Ils vont prendre un retour de bâton parce que les Irlandais, eux, sont très propres, très conservateurs du ballon. Et quand tu leur donnes des ballons faciles de turnover, derrière, il y a danger côté Clermontois. Donc, attention quand même de ne pas déjouer côté ASM, et parce qu'ils ont rien à perdre, je suis d'accord, mais tout en restant quand même dans une stratégie, parce que le score peut être lourd. Hein.
Ouais, on rappelle que là, 54 minutes, 27-12 en faveur de l'Ulster, Clermont ne serait pas qualifié quand même. Ça, c'est une.
Il faudrait fort sortir les calculs, et il y aurait très peu de chances qu'ils soient qualifiés.
Voilà, le coaching continue. N'est-ce pas trop tard, vu le tableau d'affichage, moins 15 points de
après,
retard.
Il suffit d'un essai.
Oui, c'est vrai, non, il en faut deux. Là,
mais il faut vite marquer.
Il en faut vite deux, 55 minutes, et il ne faut pas quand même. Tardé. Juste Quentin Cabanis, quand même, on l'a pas dit, mais les Français n'ont pas renversé la situation en une minute face aux Islandais en balle.
Ah non, pas vraiment. Non, les Français se sont en effet inclinés face aux Islandais, François, avec quand même une défaite assez sévère pour l'équipe de France. 29 à 21, le score final en faveur des Islandais.
Voilà, les Français qui sont encore en course quand même pour se qualifier pour la demi-finale. Mais il faudra ferrailler face au Monténégro, face au Danemark. Les deux matchs qui restent à jouer dans ce tour principal. Retour au rugby à Belfast, en Ulster bien sûr, pour un point score très rapide, Alexandre, face à des Clermontois donc, qui sont malmenés.
27 à 12 effectivement pour l'Ulster face à Clermont, 4 essais marqués par les Nord-Irlandais. 56e minute de jeu sur Sud Radio.
Allez, on se retrouve dans un instant. On a envie de vivre ces 25 prochaines minutes et surtout de voir un renversement de situation sur Sud Radio.
Sud Radio Rugby, François Triot.
19h47, Ulster Clermont, la Champions Cup, 4e journée. Ça se passe pas bien pour les Clermontois, Alexandre Priam, Julien Thomas. Ils sont en train de souffrir là. Hein.
Ouais, et là, attention, parce qu'il y a 27 à 12 pour l'Ulster face à Clermont. Il faut s'imposer pour les Auvergnats pour assurer une qualification. Sinon, il faudra compter sur un miracle. Et ça devient de plus en plus compliqué. Et peut-être l'essai d'Angus Curtis. Mais finalement, on revient au coup de sifflet de Luc Pierce. On a failli voir le 5e essai le 6e essai. Non, le 5e essai de l'Ulster. Il y en a eu deux pour Rob Ehring, un pour Duane Vermeulen et un pour Michael Laurie.
Là, ils prennent des vagues. Là.
Ah ouais, non, ça devient très très dur là, Julien.
Et la problématique, c'est qu'ils prennent des vagues du fait que l'Ulster garde le ballon. Il y a 63% de possession, 37% pour l'ASM. Donc, tu laisses le ballon à cette équipe irlandaise, tu prends des vagues pendant des séquences et des séquences, et à un moment donné, ce bras de fer défensif, en plus, au niveau du cardio, j'ai l'impression qu'ils sont partout, c'est l'équipe rouge de l'Ulster. Donc, il faut justement, la stratégie, c'est pas de leur donner des ballons. Et là, ça fait depuis presque de la reprise de la mi-temps que cette équipe de l'Ulster impose offensivement son jeu, et c'est là où elle se régale et qu'elle est efficace. Il est clairement droit à défendre.
Ouais, et il faut bien noter que l'Ulster, en Coupe d'Europe, évidemment, donc, a joué assez peu de matchs. Hein. Quand on regarde un petit peu cette équipe de l'Ulster, c'est pour ça aussi qu'on peut se poser la question un petit peu du physique. Elle a joué, donc, pour le coup, elle, tous ses matchs de Coupe d'Europe. La semaine dernière, ils sont allés gagner à Northampton, ce qui est quand même pas une mince affaire. Et puis en URC, vous savez, ce championnat qui regroupe les franchises, enfin les provinces sud-africaines, italiennes, écossaises, galloises et irlandaises, eh bien, ils ont joué un match le 8 janvier. Sinon, aucun match jusqu'au 4 décembre. Donc, il y a eu un mois sans match pour cette équipe de l'Ulster. Donc, franchement, c'est aussi peut-être pour ça qu'ils sont frais.
Mais elle met une telle intensité dans tout ce qu'elle fait, notamment dans la zone, dès qu'elle se rapproche des 10, 15, 20 mètres de la ligne de Clermont. Il y avait quand même 17-12 à la mi-temps. Il y a 27-12 maintenant. Ouais. On voit mal Clermont s'en sortir. Ou alors, s'ils s'en sortent, là, c'est que... Enfin, je ne sais pas, Julien, je ne veux pas être oiseau de mauvaise augure.
François. Quand on voit bien sûr les offensives que prennent les Clermontois de cette équipe de Ulster, on ne voit pas comment ils peuvent s'en sortir. Mais encore une fois, c'est une équipe de Clermont qui récupère un ballon dans ses 30 mètres, qui se dégage en laissant le ballon dans le terrain, et notamment avec ce trio arrière de cette équipe de Ulster.
Qui fait mal.
En arrière, Lowry qui aime relancer avec ses pattes, et puis qui est en plus le puncher, qui lui est une dynamite et en confiance. Et ils reprennent les assauts, ils reprennent la foudre. Et l'Ulster garde le ballon sur 15, 16, 17 phases de jeu, ce qui est rare dans notre championnat top 14. Peut-être clairement qu'il n'y est pas habitué et qu'à un moment donné, flanche dans ce bras de fer. Mm-hmm. En tout cas, c'est ce que je ressens dans la seconde période.
Et on parle d'une équipe qui a gagné au Leinster fin novembre, hein, quand même, hein, l'Ulster. Donc voilà, il y a quand même...
Le Leinster en ce moment, en plus.
Ah oui, ils sont allés gagner au Leinster fin novembre et 20 à 10, hein, donc sans trop de en ayant une bonne marge. On revoit un petit peu les stats de Michael Lowry, 9 ballons portés, 45 mètres parcourus, 7 défenseurs battus, il a franchi 3 fois.
Ouais, le carton jaune quand même concédé, hein, pour Raka juste avant la mi-temps a été cata, parce qu'il a coûté très cher. Est-ce qu'il ne fallait pas coacher plus tôt, même au retour des vestiaires, et changer plus tôt, Julien?
Exactement, c'est ce que je disais tout à l'heure, peut-être à la 45e de suite après, peut-être pas sortir à la mi-temps, parce que tu as l'impression que tu vas pénaliser un joueur si tu le fais sortir à la mi-temps alors qu'il était dans le match, mais c'est plus stratégique. Donc 5 minutes après, peut-être ramener du sang frais, peut-être aussi changer la stratégie par rapport notamment à cette défense, par rapport aux assauts de cette équipe de l'Ulster. Et changer de stratégie, plus on va dire de puissance, parce que l'Ulster, c'est pas une équipe très puissante, par contre, qui te déplace, qui joue, qui est dynamique. Et clairement, quand tu as le ballon, peut-être jouer l'inverse, jouer avec sa puissance qui a permis en première mi-temps de récolter des pénalités. Mais je reviens sur le carton jaune, tu as raison François, c'est qu'il a coûté cher. Et puis tu laisses des plumes, hein, parce que l'énergie pour compenser à 14 face à une équipe comme qu'on voit aujourd'hui, offensive de l'Ulster, à un moment donné, ça y joue à la fin de match.
Ouais, et puis il y a quand même aussi une donnée importante, je pense, c'est le nombre de fautes aussi de Clermont dans ce match. Encore une fois, là, à l'instant, une pénalité d'ailleurs à l'encontre des Clermontois. On est sur la 10e faute à la 60e minute. C'est un poil trop quand même face à une équipe comme l'Ulster, d'ailleurs, qui a un très bon ballon, et le lancer pour Greg Jones en fond d'alignement, le groupé qui ne peut pas se former, qui passe tout de suite au sol. Rob Ehring qui relève le ballon d'une main, il est impressionnant quand même de technicité, ce talonneur qui sera du squad du tournoi Destination avec l'Irlande, celui qui est né au Cap en Afrique du Sud. Nathan Noack avec Rob Ehring, de nouveau la bonne passe pour McIlroy avec il est passé en touche, Nick Tominay, un autre rappelé d'ailleurs, 27-12. Voilà, bonne petite défense clermontoise sans se mettre à la faute, pas arrivé souvent.
T'as vu comment ils accélèrent là, la ligne se rapproche, ah oui. Là, ça, ouais. on met de l'intensité dans tout ce qu'on fait, quoi. C'est impressionnant.
Et chaque prise de balle, c'est avec de la vitesse, c'est lancé, c'est je joue des duels avec mes appuis, j'essaye de créer un décalage et de faire tourner les épaules du défenseur extérieur. En revanche, j'étais bien défendu côté clermontois, Mais là, messieurs, c'était un lancement quand même de Luster sur 3-4 temps de jeu programmés et qui a été bien analysé dans la semaine par les Clermontois parce qu'ils savaient que ça allait prendre le milieu de terrain, renverser, jouer dans le dos. Et finalement, ils étaient en place et ils ont bien défendu les Clermontois. Mais c'est dans le désordre que là, l'équipe Luster est très forte, voire quand elle tient le ballon sur plusieurs et multiplie les phases de jeu.
Et le lancer à venir pour Étienne Fourcade qui rentre à la place de Johan Béret, Garay. Il y a quelques. Voilà, c'est plus facile à dire ou pas, Étienne Fourcade.
Béret, Garay, oui, Fourcade, c'est
Johan Béret.
Pour moi.
On a effectivement le lancer pour Étienne Fourcade. Non, on prend son temps du côté de. Il y a un problème de son.
De micro.
Ouais, un problème de micro.
Bah, je voulais dire, si, du coup, les clubs pas qualifiés sont
Malheureusement pour eux, ouais.
Donc les phases finales vont quand même être intenses côté Challenge Cup.
Ouais, ils vont être ravis.
Parce que tu as le Castres Olympique qui, moi, je trouve, ils sont en grande forme côté Champions Cup. Clermontois qui risque d'y aller, donc ça va être quand même
les phases finales. Doit-on interpréter déjà ta question, c'est-à-dire que tu penses que la 63e, Clermont n'est pas capable de rattraper ses 15 points de retard
face à
l'Ulster, 27-12.
Non, j'y crois toujours. Non, ils ont la capacité parce qu'ils ont cette expérience et un match de rugby, ça se joue jusqu'à 80. Mais là, pour l'instant, ça fait 20 minutes quand même que je ne les vois pas gagner dans ce registre-là.
Ouais, mais moi, le Clermont d'il y a 7 ans en Coupe d'Europe, oui, mais qui avait un peu le feu sacré quand même. Mais là, là on sait qu'ils sont un peu en reconstruction. On les disait en progrès ces dernières semaines. Ils ont battu Toulouse. C'était un beau match qu'on a vu en fin d'année. C'était plutôt sympa. Il y avait des signes de progrès. Mais là, quand même, la marche me paraît un peu haute là, sur. Voilà, mais je le souhaite également. Hein. Attention, on est d'accord. Hein, mais je.
Ah non, tout à fait.
Mais ça me paraît un peu difficile. Hein.
Ouais, cette reconstruction, on va dire que c'est un Clermont qui essaye de retrouver peut-être une nouvelle équipe. Donc, des joueurs qui étaient performants il y a 4, 5, 6, 7 ans, mais ils sont toujours vieillissants et qu'à un moment donné, malgré l'expérience, les jeunes doivent aussi s'expérimenter et avoir du temps de jeu. Donc, ça prend du temps. Par contre, ce que je trouve remarquable, c'est du côté clermontois, garde les staffs, essaye de construire, essaye de faire justement cette reconstruction. Il y a eu Azema, il y a eu Van Cotter, mais qui sont restés longtemps pour construire leur projet de jeu. Et dans ce secteur-là, je trouve que la direction clermontoise est plutôt bonne et efficace.
Attention quand même à cette offensive de l'Ulster. On est bien sur Sud Radio à la 64e minute. 27-12 pour les Ulstermen, les joueurs de l'Irlande du Nord, avec Michael Laurie en position de 10, un peu façon Brice Dulin, comme il aime le faire parfois. Baloukoun qui accède. Il est plaqué par Judikel Kankorié. La bonne libération avec Billy Burns. Gros plaquage, Nathan Doak. La pénalité pénalité en faveur des Clermontois. Il faut maintenant revenir dans le camp de l'Ulster parce que c'est vrai que cette seconde période, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on est exclusivement dans le camp de Clermont. J'ai pas vu le ballon être dans le camp de l'Ulster. Et d'ailleurs, ce ne sera pas encore le cas. La touche, elle est dans le camp légèrement de Clermont, Julien.
C'est
terrible.
C'est que cette équipe de Luster, là, encore une fois, dans l'alternance, elle est majestueuse. Parce que si elle n'avait pas pris avec Burns dans la cellule d'avant milieu de terrain, comme je joue dans le dos, il y avait un 6 contre 2 face à la défense clermontoise. Et heureusement qu'ils se sont trompés un petit peu dans la lecture de jeu dans cette phase offensive, parce qu'il y avait vraiment le feu au lac côté clermontois, encore une fois. Mais impressionnante quand même équipe irlandaise du Nord, parce que je vois que à chaque fois tu dis du Nord et qu'est-ce qui est vrai.
Bien sûr.
Non, non, mais tout à fait, c'est vrai qu'il y a eu ce désaccord, mais en tout cas, cette équipe d'Ulster est très impressionnante offensivement, je trouve.
Hein. Oui, c'est une équipe tout à fait à part en Irlande avec Rob Herring. Pour maintenant, il y a toujours du jeu à envoyer, c'est impressionnant. Michael Laurie, l'accélération de Michael Laurie, il a franchi, attention, il a envoyé peut-être Shannon vers l'essai. Non, finalement, il est plaqué. Encore une fois, c'est Michael Laurie qui a changé la donne sur cette offensive avec maintenant le relais de la part de James Hume et un problème d'hors-jeu côté Clermont. Avantage en cours pour les joueurs de l'Ulster. 27-12 avec Shannon qui est rentré à la place de Doak pour Rob Herring. De nouveau, Rob Herring qui passe au sol.
Oui, effectivement, et c'est très très chaud. Est-ce qu'on a le temps d'aller jusqu'à peut-être la fin de cette action qui sent pas bon quand même pour les Clermontois ou pas, Quentin Cabanis? C'est vous le juge de paix du le dieu Chronos.
Robert Ring à la charge, avec la passe sautée, et c'est l'essai, et c'est l'essai de la fin de clairement des espoirs dans cette partie. Il est marqué par Baloukoun, 32-12.
32-12 avant la transformation, il reste moins d'un quart d'heure, ça sent très mauvais pour les Clermontois dans cette Champions Cup. À tout de suite sur Sud Radio.
Debar Automobile, le spécialiste de l'importation de véhicules depuis 1996, présente
Sud Radio Rugby, François Trio.
La Coupe d'Europe et Clermont qui est en ballotage défavorable sur le terrain de l'Ulster. On vous a laissé Alexandre Priam, Julien Thomas, il y avait 34-12. Est-ce que peut-être pendant ce flash le score a évolué?
Ouais, l'essai de Jaco Van Tonder effectivement pour Clermont. Alors est-ce que ça change la donne? Pas forcément, on va voir ça. Il reste 10 minutes à jouer du côté de Ravenhill sur Sud Radio. Il y avait 34-12, il y a maintenant 34-17 en attendant la transformation. Peut-être qu'un point de bonus défensif pourrait être bienvenu. On le rappelle, hein, un bonus défensif peut permettre vraiment à Clermont de se qualifier. Les cas de figure sont
exactement ça. Ouais, il reste 10 minutes, Alexandre. Est-ce qu'on commence à sortir des calculatrices? Regardez
à la pause, là à l'instant, j'avais déjà sorti les miennes. Et c'est parti dans tous les sens.
C'est parti dans tous les sens. Le défensif,
personne ne veut s'y risquer.
Peut-être. Ouais. Et c'est ça. Donc celui-là, de défensif, il est très important côté Clermontois à un essai près. On va avoir 10 minutes de match là qui va être très intéressant et surtout dans le camp Clermontois.
Ouais, et donc l'essai marqué par Jaco Van Tonder, le poteau terrible, le poteau qui ne passe pas, la transformation qui n'est pas passée. 34-17. Il faut marquer maintenant et bien 10 points en 10 minutes. Pour avoir le bonus défensif.
Ouais, bien sûr. Et surtout, la rentrée de Penaud, ouais. De Lopez aussi, a fait du bien dans cette attaque. Penaud, quand même, qui a lui décanté la situation en courant un petit peu comme un joueur de 7 devant la défense de l'Ulster et qui a trouvé un petit intervalle, joué un duel, a passé les bras et ça a permis de briquer côté Clermontois et d'aller inscrire cet essai en suivant de 50 mètres. Donc, comme quoi les joueurs qui étaient sur le banc. Et surtout internationaux, mais parfois sont utiles, mais parfois pas assez efficaces parce qu'ils rentrent trop tard.
Ouais, petite parenthèse quand même, parce qu'on suit aussi d'un autre œil les adversaires potentiels de Toulouse qui pourraient sortir les Toulousains de la course à la qualification. On rappelle que les Toulousains ont perdu sur tapis vert 28-0 aujourd'hui contre Cardiff. Antoine Mazer, Scarlett, Clanecly face à Bristol, où en est-on?
Oui, pour le moment, les supporters toulousains peuvent respirer tranquillement. Il reste un quart d'heure à jouer entre les Scarlett et Bristol. Et c'est Bristol qui mène avec le bonus 4 essais à 2, 28-21. Il faudrait tout simplement que les Scarlett... et plus de points que cette équipe de Bristol, et surtout qu'elle marque deux essais en un quart d'heure, et pour le moment elle évolue à 14 contre 15, donc ça serait un exploit que réaliseraient les Scarlett, mais sait-on jamais. Mais pour le moment les Toulousains peuvent espérer la qualification.
Voilà, mais il reste encore deux autres options, d'autres adversaires, les Wasps notamment, et le Stade français à suivre pour les Toulousains. Retour à Ravenhill, à Belfast, l'Ulster qui malmène les Clermontois 34-17. Voilà. Ouais. Objectif bonus défensif pour l'honneur.
Pour l'honneur, pas que. Peut-être pour la qualif. Peut-être pour la qualif, enfin bon. Effectivement. On va sortir les calculettes, hein, je vous préviens. 34-17. Effectivement, un point de bonus défensif en Coupe d'Europe, c'est 7 points. Donc il faut 10 points de plus côté Clermont. 10 points à marquer en 8 minutes. À Belfast, c'est un challenge énorme pour Tcherty Berguin et les siens, avec maintenant Damien Penaud, la passe sautée à destination de Jean-Pascal Barak, qui doit faire un peu de 7 là peut-être, sauf qu'il manque d'espace à Livier et Tiraka qui libère. On est sur la ligne médiane. Vous êtes bien sur Sud Radio, 73e minute. Clermont n'est pas loin d'être éliminé dans cette Champions Cup. Il va falloir chercher un exploit, peut-être en espérer aussi sur les autres terrains avec Penaud, la fin de passe. Non, il la donne. Oh, dans le bon tempo là pour les Clermontois. Qu'est-ce que c'est que cette course? Tcherty Berguin, il s'est trompé de sens complètement. Le relais de Gédrasiak, mais il a zéro soutien. Ça va être un ballon perdu au grattage. Non, oh, gros déblayage. Kevin Vialard avec Lopez peut-être pour l'essai. Oui, l'essai marqué par Olivier Tiraka. Va aplatir au milieu des poteaux. Non, il l'a pas fait. Pourquoi il n'a pas aplati au milieu des poteaux? Olivier Tiraka, l'essai marqué quand même essai. Par les Clermontois.
Oh, superbe essai, super.
Ah ouais, quel excès. Mais c'est dommage qu'il se libère comme les Clermontois avec en se disant on n'a plus rien à perdre, on joue de nos 30 mètres, alors qu'ils sont puissants, efficaces, ils gagnent des duels, ils sont dans un jeu un peu plus au large, et finalement ça réussit. Bon, il y a une équipe de Worcester qui commence à baisser pavillon, parce que l'énergie qu'ils y mettent à chaque fois qu'ils tiennent le ballon et les nombreuses phases de jeu, mais ça paye côté Clermontois. Mais je comprends pas qu'ils se mettent un peu dans la machine à route comme ça, parce qu'ils ont plus rien à perdre, alors qu'ils ont les capacités et franchement ils ont les joueurs de talent pour le produire. Et là il y a une séquence quand même clermontoise avec un jeu au large, Penaud qui bien sûr encore une fois a créé un décalage, on est venu dans un couloir gauche pour avancer avec O'Connor, et puis on est reparti à l'opposé, qui a permis avec Raka de trouver un surnombre et d'aller aplatir. Mais par contre, il y a eu cette percée quand même au milieu de terrain de l'arrière Tiberghien. Il est allé repiquer vers l'intérieur.
Ouais, il s'est un peu trompé.
Sur les défenseurs. Ouais, que il s'en sort bien. À l'école de rugby, dès qu'on perce, chercher le soutien extérieur, souvent est judiciable. Et là, il y aurait eu un essai touché.
Et ça a été transformé très rapidement. 34-24, il reste 6 minutes 30 à jouer. Et il faut encore une marque pour le bonus défensif. Et pourquoi pas plus ? Alors pourquoi pas ? Effectivement, 10 points de retard seulement. Il reste 6 minutes 30 à jouer. Et le ballon pour les Clermontois qui ont la possession. C'était un long renvoi. Jean-Pascal Barra qui joue au pied et qui essaie de se dégager. Mais c'est un ballon rendu. Attention à l'Ulster qui est capable d'imprimer de longues séquences. McIlroy pour Michael Laurie qui a déjà plus de 9 défenseurs battus dans cette partie. C'est impressionnant. Michael Laurie, Shanahan avec donc on va travailler auprès hein, là clairement côté Ulster avec la percussion, ouais, gros travail là de la part de Sam Carter qui est passé au sol, change de sens, Shanahan avec la première ligne, Bradley Roberts qui est passé au sol, Shanahan de nouveau avec maintenant Nick Tominay, il n'y a pas de grattage possible et les minutes s'égrènent là côté Clermontois, mais on ne se met pas la faute, c'est intéressant du côté des Auvergnats. Vamaina peut-être au grattage, attention ses limites, Monsieur Pierce qui ne sanctionne pas ballon gagné par Daniel Bibi-Biziou, effectivement, avec Olivier et Tiraka. Non, c'est cher Tiberghien. Tiberghien pour Raka, cette fois-ci, avec l'accélération d'Olivier et Tiraka qui est prime. Il gagne quand même son duel. Hein. Il a avancé. Le ballon qui sort un petit peu lentement là pour Kevin Vialard avec Camille Lopez.
Ça change tout.
Pour Jean-Pascal Barak, effectivement. La rentrée de Lopez, elle fait beaucoup de bien. Paul Gédrasiak, qui a été au soutien tout à l'heure hein, de cher Tiberghien, fort courageusement d'ailleurs, eh bien, il a un petit peu plus beaucoup d'essence.
Gros match
dans le moteur.
De Gédrasiak, hein, ouais, parce que énorme match. Il avait été présent en première mi-temps. Gros match. Hein.
On regardera les stats de Gédrasiak, mais elles seront, je pense, très intéressantes, effectivement. Pénalité pour Clermont. Il faut trouver la touche, là. Jean-Pascal Barak, est-ce qu'il l'a trouvé ? Oui, la touche est trouvée et elle est bonne, j'ai l'impression.
Une belle touche.
Ouais, une belle touche, effectivement. La faute, oui, il y a une claire faute de la part d'un joueur de l'Ulster. Attention, ils sont en train de perdre un petit peu les pédales dans le match, là, les Ulstermen. Il faut arrêter le temps. Monsieur Pierre Selka, puisqu'il y a un joueur blessé, Julien.
Mais encore une fois, une défense quand même clermontoise efficace, hein, on l'avait dit en première mi-temps, où elle fermait, le montait fort, elle essayait de couper les extérieurs et de ne pas mettre le jeu en place de cette équipe de Ulster. Mais Ulster très intelligent. Hein. Quand il y a eu l'essai clermontois là auparavant, c'est qu'ils se sont dégagés, ils avaient le score large, les Ulstermen. Ils ont tapé au pied pour occuper, sauf que maintenant les Clermontois tiennent le ballon. Et les seuls ballons qu'ils ont rendus facilement à cette équipe de l'ASM, avec les qualités qu'il y a, il y a eu un essai. Ouais. Et là, ils ont essayé de remonter à la main et ils se sont fait pénaliser dans The Rock.
Ouais, à noter, hein, Paul Gédrasiak, c'est 15 plaquages, 0 manqué aujourd'hui. Ouais, Judy Kalkan-Corrier, c'est 19 plaquages, 2 manqués. De Seigne, 22 plaquages, 0 manqué. Et Jacobis Van Tonder, 17 plaquages, 3 manqués. Monstrueux. Ouais. Le ballon. Peut-être de la qualification. La touche, elle est à 7-8 mètres de l'embut. La rentrée sur le terrain de Tom O'Toole, l'international, au poste de pilier droit. Le lancer pour Étienne Fourcade. On a 7 mètres de l'embut. Il y a 5 minutes à jouer, un peu moins. 10 points de retard. Il faut le bonus défensif au moins côté Clermontois pour rêver de qualification. Une victoire serait énorme. Le lancer, c'est conservé in extremis par Sébastien Vaamaina. Le groupe est pénétrant qui se forme autour justement du géant néo-calédonien avec l'avancée autour d'Étienne Fourcade. Il faut pas se mettre à la faute, il faut continuer de progresser et c'est le cas avec Saki qui ils vont dans le but. Oh, c'est marqué par les Clermontois qui sont à la chasse en chasse de leur rêve. Incroyable là les Clermontois avec ce troisième essai. Encore un essai et ce serait le bonus offensif et la victoire pour l'ASM.
Oh là là, quel retour. Mais c'est vrai que sur cette défense, ballon gratté sur les 50 mètres, Jean-Pascal Barak, coup de pompe.
Il est pour qu'encore y aller,
pour aller chercher cette touche à 7 mètres de la ligne. Et là, un ballon construit, déjà un bon lancer, parce qu'il y avait le bloc adverse qui était pile devant. Donc, le lancer a trouvé leur sauteur milieu d'alignement. Et là, bien construit, comme l'aura fait les Ulstermen toute la partie, les Clermontois ont avancé, ont mis le ballon au chaud. Et c'est Cancorier qui est allé aplatir après ce mol.
Et la transformation passe. Elle passe, la transformation. Ça fait 34-31. Oh, une pénalité. Là il y a le bonus défensif pour l'instant. Clairement, pour Clermont, il peut y avoir le match nul. Il peut y avoir aussi une victoire clermontoise. Et si c'est une victoire avec un essai, puisque c'est le seul cas de figure quasiment, ce sera en plus une victoire bonifiée.
Et donc et surtout avec un Camille Lopez, match nul même.
Il y avait 34-12 il y a quelques minutes. Il y a 10 minutes, il y avait 34-12. C'est assez fou ce qui est en train de se passer. Oui, un supporter clermontois revenil qui en rigole parce que bah oui, on est surpris et c'est un super match. 3 minutes à jouer dans cette rencontre à Revenil et 3 points de retard pour Clermont qui est en train de défier tous les pronostics et surtout qui est en train de défier Revenil et c'est Nord-Irlandais. Le ballon qui est gardé, failli faire un en avant Cristiano Giovanni, ils sont en train de prendre beaucoup de risques les Clermontois. Ils ont probablement raison avec Cherti Berguien. Attention, il est pris par James Hume, il faut passer au sol sinon ça va être un ballon perdu. Mais ils gagnent tous les duels les Clermontois. Ils gagnent vraiment tous les duels. Encore une fois, Gedrasiak, il est monstrueux aujourd'hui, c'est lui l'homme du match probablement côté Clermontois. Lopez avec Vamaina, la passe pour la passe assez difficile, ils prennent beaucoup de risques et le plaquage d'un poil haut là du côté nord-irlandais, c'est pas vu par monsieur Pierce, on change de sens. Vialard,
2 minutes 30
à jouer sur Sud Radio avec Vialard, de nouveau Kevin Vialard, 3 points de retard, le ballon qui sort lentement. Monsieur Pierce, faudra un peu moins compter sur lui sur cette fin de match pour signaler des fautes probablement avec la percussion et encore 70 mètres à remonter côté ASM. On essaie de porter le ballon quitte à se cramer avec Damien Penaud qui est rentré au poste de 3 quarts centre aujourd'hui à la place de Tani Vili. Le ballon pour Vialard de nouveau et on n'avance plus côté Clermontois. Il y a une très grosse défensive peut-être là sur les extérieurs, il faut donner, il n'a pas choisi la bonne course là, le joueur clermontois. C'était notamment Jean-Pascal Barak qui n'est pas venu proposer une solution extérieure, qui a voulu faire mine de croiser avec Daniel Bibiziou pour maintenant Jacobus Von Thunder et Camille Lopez qui a fait une énorme rentrée. Camille Lopez avec Rabah Slimani, Étienne Fourcade qui était à la passe là pour envoyer ses coéquipiers à l'avancée et ça avance pas. Et la touche Judicael et Cancorier propulsé en touche, ils n'ont pas trouvé de solution mais ils n'ont pas assez alterné peut-être aussi.
1 minute 30.
Oh là là, quelle action aussi, Clermontoise. C'est vrai qu'ils n'ont plus rien à perdre. Il y a le défensif, offensif à prendre avec un essai, mais en plus, cet essai amènerait la victoire. Donc, des Clermontois qui relançaient de leur 22, qui ont tenu le ballon, qui étaient dans l'alternance, c'est vrai, dans le jeu, dans le dos, un petit peu de pénétration au milieu de terrain, essayer. Ils cassent plus de plaquage aussi dans les duels, les Clermontois, ce qui fait qu'il y a de bonnes avancées. En revanche, il n'y a pas eu d'indiscipline côté Ulstermen. Ce qui fait que la défense a pris le pas sur la fin avec la touche récoltée pour cette équipe de l'Ulster. Là, maintenant, ça va être un peu plus compliqué parce que c'est un ballon pour l'équipe d'Irlande du Nord. Et du coup, ils vont, à mon avis, conserver comme ils aiment jusqu'à ce que ça sonne ou que ça soit la fin réglementaire.
Ouais, mais peut-être que le plus dur est fait. Peut-être que ce bonus défensif, il a ouvert la porte à beaucoup de choses, ce bonus défensif. Il vient de donner quand même pas mal d'espoir aux supporters clermontois. Tant qu'il est là, le bonus défensif, mais a priori, sauf s'ils encaissent un essai, il sera là. Parce que là, l'Ulster va essayer quand même d'aller finir sur une bonne note. Il y a 1 minute 15 à jouer à Revenil. 3 points de retard pour Clermont sur la pelouse de l'Irlande du Nord en Ulster. Et une victoire. Évidemment, un essai, ce serait une victoire. Une victoire en plus bonifiée, ce serait la qualif. Un point de bonus défensif, ce serait déjà bien. Il faut surtout ne pas encaisser d'essai. Le lancer côté Ulster, on n'a quasiment pas sauté. Côté clermontois, il faut maintenant défendre côté ASM. Il reste 50 secondes à jouer sur Sud Radio. Le ballon, il est dans les mains de Bradley Roberts qui a pris la place de Rob Herring qui a été excellent durant cette partie. Le groupe est pénétrant qui se forme. Pas de faute signalée par monsieur Pierce. Attention, Jacobus Van Thunder, il faut bouger. Il faut sortir de cette situation de hors-jeu. Le ballon qui est sorti par Roberts. Vamaina au grattage. Est-ce qu'il a pu récupérer le ballon, Sébastien Vamaina? Non. Le ballon est toujours en faveur de l'Ulster qui veut absolument s'imposer. Ça va travailler devant. Ils vont pas inventer rugby là. Les Ulstermen, attention, peut-être le grattage là, du numéro 20, c'est Fritz Lee. Ce n'est pas validé par monsieur Pierce. Encore une fois, tentative de grattage, il reste 15 secondes à jouer. Le bonus défensif est en train d'être consolidé et pourquoi pas mieux avec le gros plaquage. Encore une fois là, pour de la part de Fritz Lee, ils attendent vraiment le chrono. Les joueurs de l'Ulster, ils sont un peu au bout du bout. 5 secondes à jouer avec une nouvelle percussion. C'est maintenant pour tenter un grattage. Est-ce que ça va être possible? Non, ça sort côté Shanahan et le ballon va être propulsé en touche avec un bonus défensif, semble-t-il. Et c'est le cas, le bonus défensif pour Clermont, récupéré à Ravenhill. Il vient de très très loin et il peut peut-être ouvrir la voie à une qualification en huitième de finale. C'est finalement plutôt une bonne opération de la part de Clermont qui a existé surtout lors des 25 dernières minutes, François. 20 dernières minutes.
Peut-être. Ouais, effectivement. 34-31, la victoire donc de l'Ulster face à Clermont. On fera les calculs, bien sûr. On va débriefer, on est ensemble jusqu'à 21h sur l'antenne de Sud Radio. On va revenir sur cette performance de Clermont. Julien, Thomas, quand même, votre sensation, c'est que c'est Clermontois, sur les 10 dernières minutes qu'ils nous ont offertes, méritaient peut-être mieux, mais ils se sont peut-être réveillés trop tard, surtout.
Ah, c'est ça, c'est la reprise de seconde mi-temps qui a été fatale pendant 25 minutes. Ils se sont complètement écroulés parce qu'ils n'avaient aucune possession de balle et ils ont pris les assauts de cette équipe d'Ulster qui est impressionnante, qui est efficace, qui a tenu des phases de jeu que ne pouvait pas contenir la défense clermontoise. Et c'est là où ils ont créé ce break. En revanche, quand je vois cette fin de match clermontoise, cet état d'esprit, s'ils pouvaient jouer, pas l'alternance tout le match, mais mettre cet ingrédient, on va dire au moins 70 minutes, ils gagneraient plus de matchs. Et là, ils reviennent dans ce match avec le caractère, avec de la force, avec le banc aussi qui a beaucoup apporté. On en avait parlé pendant le match, François. Et ça a été plutôt efficace, il me semble, les rentrées de Lopez, de Penaud. Je trouvais que même Vialard avait un peu plus animé ce jeu clermontois. Et ils n'étaient pas loin de cet exploit. Maintenant, c'est sortir des calculatrices pour rien. Alors qu'il y avait peu de possibilités.
Ouais, le plan n'a pas fonctionné à merveille. Philippe Spanghero, consultant Sud Radio, qui nous rejoint bien sûr. Vous avez sans doute observé en détail la performance des Clermontois. Oui, réveil un peu tardif et sans doute des regrets quand même au vu des 10 dernières minutes.
Ben, des regrets à la vue des dernières minutes et puis c'est un peu le constat de cette phase de poule européenne du côté de Clermont, un peu trop à réaction comme on les avait vus à domicile face à l'Ulster aussi, mais à la fois quand même beaucoup de caractère collectif pour revenir dans ce match, aller chercher un point important pour la suite de la compétition. Et c'est un match, je pense, qui fera du bien à ce collectif clermontois et qui leur servira aussi en top 14, parce que c'est quand même un match pas complètement plein, puisqu'on l'a dit, il y a eu des passages à vide, mais ce caractère est à souligner, et je pense que ça fait partie des matchs fondateurs pour un groupe, et clairement, ça en servira derrière en top 14.
Il y avait 34-31, donc c'est le score final, 34-12, hein, Alexandre. Ouais. Voilà, il y a eu cette remontée, mais c'est vrai qu'il y a eu quand même un début de seconde mi-temps un peu difficile pour les Clermontois. Un carton jaune qu'ils ont payé cher. Ouais. Ils étaient menés 17-12 à la mi-temps, et ensuite, c'est parti un peu en vrille.
Oui, je peux vous refaire le scoring si vous voulez. Dès le début du match, il y avait l'essai de Robbering, ça faisait 5-0. Ensuite, il y avait la pénalité de Morgan Parra, deux d'affilée, ça faisait 6-5 pour l'ASM. Clermont-Auvergne à la 18e minute. Derrière, il y a le deuxième essai, cette fois-ci marqué par Michael Laurie, côté Ulster. 10-6, 10-9, nouvelle pénalité de Morgan Parra. Encore une autre, 10-12. À ce moment-là, Clermont mène 12-10. Sauf qu'il y a le carton jaune de Olivier Tiraka, ce qui permet du coup à l'Ulster de marquer juste avant la pause, 17-12 à la mi-temps. Ensuite, il y a 20-12, une nouvelle pénalité marquée par Nathan Doak. 27-12, l'essai inscrit par Vermeulen, et ensuite il y a 34-12 à la 65e, et cet essai de Rob Baloukoun. On se dit 34-12 à la 65e, c'est terminé, sauf qu'il y a l'essai de Van Tonder à la 69e, celui de Raka à la 72e, puis de Cancorier à la 75e. 34-31 et effectivement, moi je note surtout l'incroyable activité des avants. On pourra en faire un point statistique, mais la rentrée surtout, je trouve, de Camille Lopez qui a changé vraiment cette équipe.
Ouais, et la question peut être posée à nos consultants Sud Radio, Julien Thomas, Philippe Spanguero. N'a-t-on pas fait une erreur en termes de stratégie côté Clermontois ? Fallait-il laisser sur le banc Lopez, Penaud, Vamaina, Fritzli pour les faire rentrer qu'à la 50 ou 60e ?
Et pour ma part, c'est une stratégie peut-être menée et réfléchie, parce qu'il y a quand même de l'analyse et de la profondeur dans la semaine. En revanche, pour moi, elle a été trop tardive à la vue de cette seconde mi-temps et de cette reprise où ça a été dominé par 5, 10, 15 minutes et ça a duré, alors que peut-être cette fraîcheur, il fallait la mettre plus tôt, voire même quasi à la mi-temps, mais bon, au moins 5 minutes après la mi-temps, commencer à faire du coaching, qui aurait pu déjà changer la donne. En revanche, c'est vrai que, comme disait Alexandre, c'est quand même des entrées de Lopez et Penaud aussi. Je trouve qu'il a décanté pas mal de situations sur ses duels, créé des surnombres par ses appuis. Donc, très intéressant aussi quand même d'avoir cette stratégie, mais elle a été trop tardive. Moi, le second point que, honnêtement, j'aurais mis, c'était un Lopez titulaire. Voilà, c'était
une
analyse personnelle.
Voilà,
par rapport à l'extérieur, de jouer au pied, de la stratégie et de l'animation.
Voilà, s'il était bien sûr à 100% de ses moyens, ce qu'on ne sait pas forcément, bien sûr. Philippe Spanguero, est-ce que Clermont s'est trompé de stratégie, grosso modo, dans ce match, dans ce déplacement en Ulster ?
Ben, en voyant le 15 de départ, on peut s'interroger, parce qu'il y a des joueurs cadres de cette équipe qui étaient au repos, donc qui ont fait la différence, on le répète, lors de leur rentrée, un peu tardive. Mais après, c'est vrai que c'est toujours délicat, parce que le staff est au quotidien avec les joueurs, prend la température de l'état de forme de chacun, et c'est pas facile quand on est en dehors de juger. C'est vrai que sur le papier, l'expérience d'un Fritzli paraissait manquer, la densité d'un Vamaina aussi, l'expérience d'un Camille Lopez, bien, on l'a vu lors de sa rentrée, aurait peut-être changé un peu la donne. C'est difficile de refaire l'histoire après, mais il y a peut-être un petit péché d'orgueil de la part de Clermont de s'être dit qu'ils allaient pouvoir faire la différence après. L'écart était trop grand à 34-12, malgré la qualité du banc pour revenir dans ce match. Mais je le répète, c'est vrai que cette équipe de Clermont, que ce soit en top 14 ou en Champions Cup depuis le début de la saison, elle a été un peu trop à réaction, et c'est encore le cas ce soir.
J'ai une bonne nouvelle.
Ah,
j'ai une bonne nouvelle pour les Clermontois. Ce point de bonus défensif, il est utile, il est fortement utile, et il faut maintenant espérer deux choses. Déjà, il faudra attendre demain pour savoir si Clermont se qualifie. Demain, pourquoi ? Parce que demain, Montpellier accueille les Exeter Chiefs. Les Exeter Chiefs, ils sont cinquièmes, et si Montpellier bat Exeter, Montpellier est devant Clermont, et ça pourrait compter cher aux Clermontois. Donc les Clermontois seront en faveur de Exeter demain. Ce sera du côté de Montpellier. Et ensuite, aussi, il faudra soutenir ces Ospreys. Pourquoi soutenir les Ospreys ? Parce que s'ils battent Sale, Sale ne passera pas devant Clermont. Voilà, il y a pas mal de petites choses à voir, mais a priori,
Montpellier peut se qualifier.
Montpellier peut parfaitement se qualifier. Et pour ça, il faudra battre les Chiefs d'Exeter, ce qui n'est pas une mince affaire, évidemment, pour Montpellier. Autre bonne nouvelle, et là, ça se passe du côté de Bristol. On rappelle, Toulouse comptait... C'est l'autre poule. Toulouse, le Stade Toulousain, pour ne pas être éliminé, était vraiment supporter de Bristol. Il ne faut pas que Clanekley, les Scarlets, gagnent avec le bonus du côté de Bristol. Eh bien, ça s'est passé comme ça. On est à la 82e, alors c'est pas tout à fait terminé. Si, ça y est, c'est terminé d'ailleurs. Et Bristol s'est imposé 52-21. Donc, la voie de la qualification pour le Stade Toulousain maintenant est clairement envisageable. Et on est maintenant sur une grande probabilité de qualification pour les Toulousains.
Ouais, effectivement, grande probabilité. Il faudra quand même surveiller demain la performance des Wasps et du Stade français.
Il faudrait que les Wasps aillent gagner. Pour pas qu'ils soient qualifiés, il faudrait que les Wasps aillent gagner avec le bonus au Munster et que le Stade français batte aussi maintenant le Connacht avec le bonus offensif. Donc ouais. Je vois mal, sincèrement, les Wasps gagner avec le bonus à Thomond Park. Mais bon, sait-on jamais.
Sait-on jamais, effectivement, il peut se passer des choses absolument incroyables outre-Manche. Voilà, on va bien sûr... qu'est-ce qu'on dit, Quentin? Oui, on se dit qu'on va se retrouver dans un instant. Mais bien sûr, parce qu'on est là jusqu'à 21h, on va bien sûr débriefer cette journée européenne, même si elle est un petit peu amputée. Et puis aussi toute l'actualité sportive. Restez bien sur Sud Radio.
Sud Radio Rugby, François Trio.
C'est effectivement le rugby, la Champions Cup, voilà, La Rochelle qui va... Elle était courte cette page, vous m'avez pas prévenu Quentin. Eh oui, voilà, c'est tout. Julien Thomas est avec nous, Philippe Spanguero également, Alexandre Priem, Antoine Mazer. Des bonnes nouvelles donc pour les Toulousains si on vous suit.
Oui, clairement il faudrait que les Wasps fassent un coup du côté du Munster, ce qui est assez peu probable, et que le Stade français étrie complètement le Connacht à domicile. Là aussi...
Faisons un petit tour de table, tiens, avec nos consultants. Respect, mais... Est-ce qu'ils y croient, cette éventualité, Julien Thomas?
Oui, tout est faisable. Mais comme on disait pendant le match, François, tu me posais la question, avec autant d'écart, Clermont peut-il gagner ou aller chercher quelque chose? Mais j'avais dit oui, 80 minutes, il y a toujours à jouer. Et finalement, ils ont pris le défensif. Donc demain, il y a possibilité et des chances. Tant qu'il y a possibilité, pour moi, on peut y croire jusqu'au bout.
Ouais, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Exactement. Hein, si je vous suis, mon c'est cher ça. Julien, mais on reviendra quand même sur les Clermontois parce que bon, moi je suis, je ne renie pas ce que j'ai dit pendant le match. Voilà, je pense qu'ils se sont un petit peu trompés quand même. Philippe Spanguero, selon vous, pour Toulouse, c'est bon quand même. Si voilà, ça, les deux éventualités, que les Wasps aillent faire un coup au Munster et que le Stade français batte le Connacht avec un bonus offensif, a priori. Ça ne devrait pas peut-être se passer demain.
Moi, je crois moins au premier scénario qu'au deuxième. C'est tellement dur d'aller faire un coup au Munster que ça me paraît compromis. Après, le Connacht a eu quelques saisons plutôt intéressantes.
Ils sont déjà qualifiés, le Connacht. Hein.
Ouais, donc le Stade français peut créer la surprise. Mais je crois qu'en effet ça semble quand même plutôt bon pour les Toulousains et ce serait que justice.
Oui, effectivement, on rappelle que les Toulousains ont été battus sur tapis vert, un scénario et une décision un petit peu loufoque qu'on a vécu dans cette fin de semaine. On en a parlé en début d'émission tout à l'heure, on y reviendra dans quelques instants. Pour clôturer peut-être le chapitre Clermont, oui. Voilà, est-ce que finalement au-delà des stratégies de composition d'équipe, on va dire, et de coaching, est-ce qu'ils n'ont pas finalement trop peu joué, ces Clermontois? Est-ce qu'ils n'ont pas un peu trop limité leur jeu, Julien Thomas?
Et surtout, ils ont attaqué par du jeu en première mi-temps, on va dire dans les 35 premières minutes de cette mi-temps. Et puis, ils ont été dans un trou vraiment, un trou profond et noir, où ils n'ont fait que défendre et ont pris les assauts de cette équipe du Munster qui a été... très efficace, et comme on le sait, quand elle tient le ballon, a mis à mal toute défense clermontoise. En revanche, c'est des Clermontois qui quand même sortent peut-être de cette compétition et qui n'ont pas eu le standing de ces précédentes années qu'on connaît de cette équipe de l'ASM. Donc, ouais, c'est un peu décevant. Je pense que, comme on disait, ils sont dans la reconstruction, ils sont en train de faire une transition avec Jono Gibbs et peut-être des joueurs cadres qui vont partir comme Parra, Lopez, et puis cette nouvelle génération qui commence à venir. Donc, on les sent voilà, dans l'entre-deux et ça se signifie avec cette Coupe d'Europe.
Philippe Spanguero, voilà, est-ce qu'il y a des joueurs que vous voulez peut-être mettre en avant? On a parlé tout à l'heure de Paul Gédrasia qui avait fait une...
Je peux vous donner les stats, les stats corrigés du coup à la fin de ce match. Ça fait donc 16 plaquages pour Paul Gédrasia, 0 manqué. Il a été aussi très intéressant ballon en main, hein. 8 ballons portés, 20 mètres parcourus ballon en main, donc 16 sur 16. Judicael Cancorier, c'est 19 plaquages réussis sur 21. Lucas Desaignes, qui est sorti à la 75e, c'est 23 sur 23, 23 plaquages hein, quand même pour Lucas Desaignes. Jacobus Van Thunder, c'est 17 sur 20 au plaquage. Voilà, à noter aussi hein, Jean-Pascal Barak, 14 sur 16 au plaquage. Voilà, il y a eu une grosse activité dans cet exercice-là. Et franchement, cette troisième ligne-là, même hein, on rajoute un Paul Gédrasiak, a été vraiment très intéressante au plaquage. Et ça n'a pas empêché la défaite, malgré tout.
34-31, on le rappelle, pour ceux qui nous rejoignent sur l'antenne de Sud Radio. Félix Panguero, votre point de vue sur, ou ton point de vue sur ces derniers éléments?
Bah, de toute façon, les stats parlent d'elles-mêmes. Hein. Alex avait salué le gros travail quand même du paquet d'avant Clermontois. Et c'est vrai que ces joueurs, quand Corrier, Gédrasillac, c'est des joueurs qui ont été dans le groupe de l'équipe de France, qui doivent certainement avoir envie de montrer au staff qu'ils sont toujours présents. Ils ont fait un gros match tous les deux. Finalement, c'est plutôt Ventondé, le numéro 8, qui a été un peu plus en dedans dans ce match, j'ai trouvé. Et c'est vrai qu'avec avec un Fritz Lee d'entrée, ça aurait peut-être été un peu différent en termes de densité. Et puis après, bon, il y a quand même Lopez sur sa rentrée qui a pesé quand même beaucoup. Donc voilà, pour les joueurs, mais c'est difficile d'en ressortir quelques-uns comme ça. En tous les cas, du côté de Clermont, comme le disait Julien, c'est quand même une période de transition, on le ressent. C'est quand même une équipe qui a vraiment marqué l'histoire de la Coupe d'Europe. Hein. Ils ont pas su la remporter, mais ils ont fait de très très brillantes campagnes européennes ces dernières saisons. Là, on le voit, comme en top 14, c'est un peu plus douloureux en ce moment. Et on sent clairement qu'il y a une volonté, on le voit avec les joueurs cadres qui partent, de reconstruire quelque chose.
C'est vrai qu'il y a cette fin de cycle, entre guillemets, mais on sent quand même que l'importance de Camille Lopez, il avait été, il y a deux semaines, il avait mis un drop décisif
face à Sale.
En top 4.
En Coupe d'Europe aussi, face à Sale, il avait été très très bon, mais oui.
Et c'est quand même. On sent cette mainmise, Julien, et on sent que l'esprit aussi est autour de ses joueurs. Donc c'est tout le paradoxe, en fait, pour le manager. Il est obligé de reconstruire, de se projeter sur la saison prochaine, mais on va dire son quotidien, on a l'impression que son équipe va bien quand il a ces joueurs-là alignés.
Et c'est ça, c'est des joueurs d'expérience qui ont le métier, qui ont des sélections, qui peuvent briefer les jeunes et surtout dans ces matchs vraiment peurés. Et puis dans cette Coupe d'Europe, on sait très bien que le moindre faux pas pendant le match ou le détail compte énormément. Mais je reviens à la stratégie que voulait mettre Jono Gibbs avec ce banc des remplaçants. Je trouve ça peut-être judicieux. Par contre, j'aurais mis une charnière para Lopez d'entrée. Ça aurait peut-être changé la donne, il me semble, par l'expérience.
C'est sûr que JJ Anran, on l'a peu vu. Hein.
Ouais, dans le jeu clermontois, ça aurait peut-être changé la donne quand même, hein, para Lopez d'entrée.
Ouais, effectivement.
Quitte à préférer rentrer Penaud, Vahamina, tout le banc qu'avait Fritz Lee, mais cette charnière, peut-être que ce n'était pas le même match.
Ouais, effectivement, JJ Anran titulaire, ce n'est pas toujours des succès hein, pour Clermont. Ça va être notamment en top 14 quand il est titulaire. C'est une défaite à Lyon, une défaite au Stade Français, une défaite à l'Union Bordeaux-Bègles, une victoire face à Toulon à domicile, une défaite à Perpignan et une défaite au Stade Toulousain. Donc sur les 6 titularisations de JJ Anran, c'est 5 défaites et une victoire. Et puis en Champions Cup, quand il est titulaire, c'est 2 défaites sur 2 pour Camille Lopez. Donc JJ Anran. Donc on se rend compte que je suis pas certain que JJ Anran. Ouais, j'ai pas l'impression que JJ Anran bonifie ce Clermont-là. Et on voit systématiquement une équipe mieux jouer quand Camille Lopez est là. Donc je pense qu'il y a un petit souci pour le coup, là, plutôt côté staff, avec Jono Gibbs qui fait ce choix-là.
Non, mais je suis d'accord avec toi, Alexandre. C'est pour ça que je dis une charnière Lopez-Parra d'entrée aurait fait peut-être un autre match du côté clermontois et plus efficace surtout. C'est vrai que Anran, il est assez effacé et surtout il a du temps de jeu mais dans des matchs extérieurs, des matchs un peu plus difficiles, on a l'impression qu'on lui donne des miettes et ça un joueur suivant la confiance qu'il peut avoir il joue un peu loin de la défense, surtout face à une équipe de Luster et dans cette Coupe d'Europe il joue un peu moins on va dire pour lui et on va dire avec ses centres dans la communication et son demi-mêlée, alors que Lopez Parra avec l'expérience qu'ils ont, la communication et puis les matchs dans le sac à dos qu'ils ont tous les deux aurait, je pense, été bénéfique pour l'ASM aujourd'hui.
Oui, effectivement. On observera bien sûr hein, ces évolutions dans l'effectif de Clermont. On a aimé quand même cet état d'esprit, cette fin, avec aussi ces joueurs qui, entrant ou sur le terrain, ont été déterminants quand même. Ça prouve qu'il y a quelque chose, on le sait, dans cette équipe de Clermont. Et que peut-être aussi cette deuxième partie de saison eh bien, va leur permettre de progresser encore. Il est certain que ce bonus défensif 34-31 pèsera quand même, parce qu'il peut aussi leur assurer une qualification, on le rappelle, hein, puisque si La Rochelle bat Glasgow ce soir et que Montpellier s'incline face à Exeter, les Clermontois se qualifieront pour les huitièmes de finale de cette Champions Cup très décriée, on en parle. Est-ce qu'on peut récapituler peut-être les principaux résultats, parce qu'il y en a eu, il n'y a pas eu que des 28-0 synonyme de victoire sur tapis vert, il y en a eu d'autres si on mêle aussi les confrontations entre équipes anglaises.
Hein. Oui, notamment aujourd'hui la victoire du Leinster à Bath en 64-7, le succès de Bristol face aux Scarlets de Clanecly 52-21, victoire donc on a vécu sur Sud Radio de l'Ulster face à Clermont 34-31. Voilà pour aujourd'hui dans cette Champions Cup. Voilà, il n'y a eu que 3 matchs.
Hier, hein. Il y avait la défaite des Castrés, ouais. 36-33.
Malheureusement,
ouais. Philippe Spanguero, tiens, vous faire réagir sur la défaite. On en a parlé à la mi-temps tout à l'heure avec Julien Thomas. Défaite malheureuse et discutable des Castrés aux Harlequins. Discutable parce que la décision de l'arbitre qui a accordé cet essai en fin de match aux Harlequins était discutable. Est-ce que vous l'avez vécu, vous, comme une injustice ou pas?
Ouais, un peu. Alors hier, la journée était particulière. On était quand même un peu remonté côté français. On se disait qu'il y avait beaucoup d'injustices et que c'est souvent les clubs français qui en faisaient les frais. Et puis la journée se termine par ce match-là. Et c'est vrai que quand on voit l'investissement qu'a mis cette équipe de Castres et plus globalement sa campagne européenne cette année, c'est pas payé parce que les Harlequins, c'est une des grosses écuries de cette première chip anglaise, hein, on le redit, qui est redevenue très très solide après avoir connu quelques années un peu moins bien. Donc ça fait partie des références au niveau européen. Castres, en plus, qui avait un peu fait tourner son effectif, fait un très gros match. Et puis il y a ces 6 minutes d'arrêt de jeu, laissé accordé un peu litigieux. Et puis globalement, le match de l'arbitre qui a plusieurs décisions qui peuvent être contestées du côté castré. Donc ouais, ça laisse un goût amer parce que Castres méritait vraiment mieux hier soir.
Ouais, il méritait de ne pas sortir par la petite porte. C'est castré vu la performance. Et il y avait eu le Munster également, hein, qui avait été aussi une belle performance côté castré. Voilà, de la déception en tout cas. Bien sûr, on l'a vécu hier sur l'antenne de Sud Radio. On a donné tous les résultats, on est sûr.
Oui, en Champions Cup. Oui.
On a dit aussi que l'Union Bordeaux-Bègles était qualifié. Non, on l'a pas vraiment dit ça encore.
L'Union Bordeaux-Bègles est qualifiée, La Rochelle est qualifiée, le Racing 92 est qualifié.
D'accord, l'Union Bordeaux-Bègles qualifiée malgré sa défaite sur tapis
Ils
vert.
Ils sont pas montés dans l'avion.
Au Tiger de Leicester. Deuxième phase de finale quand même pour l'Union Bordeaux-Bègles. Deuxième saison consécutive. En dépit des aléas de cette qualification, messieurs Julien Thomas et Philippe Spanguero, ça valide aussi la progression de cette équipe.
Totalement. La progression en championnat déjà et en Coupe d'Europe. Cette Coupe d'Europe, je pense, mais malgré les aléas, ils se sont qualifiés. Mais c'est des objectifs dans cette équipe de l'UBB avec Urios qui a l'effectif à la profondeur. On l'a vu avec un Buros qui a été blessé, cet arrière, jeune arrière bordelais qui a été étincelant. Donc ça révèle aussi des talents et puis il a une profondeur. Donc bien sûr, les deux tableaux, que ce soit championnat ou Coupe d'Europe, il l'avait en tête Urios et puis ça a permis cette qualification. Maintenant, j'espère que le chat noir de justement cette Covid ne va pas encore rentrer en jeu pour cette équipe de l'UBB.
Oui, effectivement, le Covid, voilà.
Exactement.
On est un petit peu fatigué.
On
n'arrête
pas tout. Exactement.
Voilà, mais bon, voilà, on vit avec.
Tout à fait.
Si on dressait également le bilan un petit peu de la Challenge Cup, parce que il y avait notamment un Gloucester Perpignan tout à l'heure, il y avait 25-12, je crois, contre les
68-19 pour Gloucester.
Ah oui, effectivement. Ouais. C'est corsé.
Ouais, ça c'est un peu corsé effectivement. Du coup, eh bien, le Perpignan qui est donc eh bien quatrième de sa poule B, dominé par Lyon qui s'est imposé hier face au Benetton Trévise sur le score de 25-10. Lyon est d'ores et déjà qualifié, bien évidemment, avec 4 victoires en 4 matchs, 18 points. On rappelle aussi qu'il y a Toulon qui est dans la poule 1, qui est d'ores et déjà qualifié avec 3 victoires en 3 matchs pour les Toulonnais. Le Biarritz Olympique est dans cette poule A qui est quatrième. Ensuite, eh bien, il y a la poule C où il y a Brive et la section paloise. Brive, c'est incliné hier. Hein. Incliné, le mot est faible. À Édimbourg, 66-3. Brive qui est troisième devant la section paloise, quatrième. Voilà, donc c'est trois poules. Comment ça fonctionne? Eh bien, il y a tous les troisièmes, 1, 2, 3 qui passent dans chaque poule. Et après, il y aura un classement des meilleures équipes placées quatrième. Il y a donc 4 matchs et le quatrième. Le quatrième match n'est pas encore fait.
Ouais, et le 9, 10, 11 des poules de Champions Cup sont reversés en challenge. Hein, on est d'accord.
C'est vraiment un super format.
Mais
vraiment.
Comme en plus le Covid est venu un petit peu éclairer toute cette formule,
du grand art,
c'est vrai que c'est difficile à expliquer, c'est difficile à décrypter. En tout cas, on vous a donné tous les résultats dont on était en mesure de vous donner. Hein, il y a des scores assez larges entre l'effet Covid qui affaiblit les effectifs. Et ensuite des équipes qui, on va dire, sacrifient la compétition, c'est difficile d'y voir un intérêt, Julien Thomas.
Et c'est surtout que la réglementation est tellement carrée qu'on peut suivre à la lettre, bien sûr, tout résultat et tout report ou les points attribués. Donc, donc on est tranquille au niveau des maths. J'ai l'impression que c'est la NASA à chaque fois qu'on parle des poules. Mais bon, on s'adapte.
Philippe Spanguer, on se souvient qu'à quelques saisons, quand même, certains clubs, et notamment, je pense que c'était Agen, avaient été sanctionnés pour non-combativité dans la compétition.
Ils ont envoyé des gens de 15 ans aussi, donc c'est embêtant. Non, je sais plus.
Non, mais c'est vrai que honnêtement, cette petite Coupe d'Europe, financièrement, elle représente pas grand chose pour les clubs, et c'est une vraie plaie parce que on parle de clubs qui souvent luttent pour le maintien. Quand on voit Brive encore qui est en difficulté aujourd'hui en top 14, n'a rien à jouer de particulier dans cette compétition, et c'est en plus ces mêmes clubs qui, par définition, ont un peu moins de profondeur de banc pour jouer sur les deux compétitions. Donc, elle est indigeste pour les clubs qui doivent la jouer, particulièrement les clubs français, parce qu'elle n'a pas, encore une fois, de vrai intérêt. Elle attire pas de monde dans les stades, elle fait pas de recettes, elle est très contraignante d'un point de vue du staff, ben pour faire des équipes, puisque les joueurs cadres, il faut les réserver pour les matchs importants et la survie en top 14, voire espérer un peu mieux. Mais voilà, donc ça fait beaucoup de contraintes pour finalement très peu d'attrait.
Ouais, très peu d'attrait, moi je suis plutôt d'accord. Après, il y a 650 000 euros quand même quand tu te qualifies en Challenge Cup qui est offert par le PCR. Donc tu dois jouer le jeu aussi.
Mais Alexandre est prêt de ses sous aujourd'hui.
Ah moi, 650 000, tu me les donnes, je peux te dire que je joue le jeu. Hein. Ah bah, je vais me défoncer.
Bien sûr, ça se comprend. Mais aujourd'hui, c'est vrai que le moindre club de top 14 qui veut espérer quand même se maintenir, il doit avoir à minima 18-19 millions d'euros de budget. Et la plupart d'entre eux ont un peu plus que ça, dépassent les 20 millions d'euros de budget. Donc bien sûr, 650 000 euros, c'est pas rien, il faut juste le remettre en perspective sur quoi on parle. Et c'est vrai que 650 000 euros sur un budget de 20 millions...
C'est une belle voiture de sport.
Ouais, très belle voiture de sport. Même
ouais, mais le budget de 20 millions, il est structuré autour du top 14. Et à la fois, si les 650 000 que tu prends de la petite Coupe d'Europe te fragilise pour rester compétitif en top 14 et te mettre en risque les 20 millions à côté, bon, le calcul, il est pas très intelligent, quoi.
Bon, oui, Julien, pour le mot de la fin sur ce sujet.
D'accord, c'est que c'est surtout la Challenge Cup, c'est depuis des décennies que tu fais tourner, tu essayes de mettre des mecs au repos, que tu mets des jeunes qui peuvent se révéler, et ça, c'est pas de maintenant. Et surtout, avec le nouveau format, le second point, c'est que tu sais que dans la Champions Cup, il y en a qui sont au ballotage, qui vont redescendre, et que tu vas te faire cabosser par les mecs qui sont pas qualifiés des équipes du dessus. Donc, pourquoi aller remettre des minutes de jeu à tes joueurs cadres et alors que tu vas rien gagner peut-être à l'arrivée. Donc c'est pour ça que ces clubs-là les font tourner, qu'il y a des turnovers et que tu perds des matchs peut-être face à des équipes moindres que la tienne.
Voilà pour la Coupe d'Europe, voilà. En tout cas ce week-end, Julien Thomas, Philippe Spanghero qui sont avec nous sur l'antenne de Sud Radio. Dans un instant, on va vous parler de la liste des 42 qui est sortie cette semaine, 42 joueurs sélectionnés pour ou présélectionnés pour le tournoi des Destinations, et puis ensuite le fameux conseil de classe de la Pro D2 après la 18e journée qui s'est disputée hier et qu'on a suivi sur Sud Radio. Tout d'abord, avant cela, un petit rappel des trois infos multisports qu'il fallait retenir, et notamment la défaite des handballeurs français.
Exactement, les Français qui se sont lourdement inclinés face à l'Islande, 29-21 dans son championnat d'Europe. Les Français peuvent toujours se qualifier pour la suite de la compétition. Pour ça, il faudra battre le Monténégro lundi.
Et le Danemark également. Et le Danemark avec une grosse différence de but. Hein, parce que il y a des conditions à la qualification. Ils sont plutôt en ballotage. Ils ne sont pas bien, nos experts, ou je ne sais plus comment on les appelle, les Barjots, les. Enfin, bon, bref. Autre info, elle concerne le foot.
Exactement, avec la 22e. Journée de Ligue 1 qui continue aujourd'hui avec Brest qui a battu Lille 2-0, et il y aura à 21h Lens-Marseille pour la Ligue 1.
Une troisième info ?
Y a de la Ligue 2 en ce moment avec Dijon qui mène face à Quevilly, Amiens qui mène face à Guingamp, et puis pour le moment, match nul entre Le Havre et Rodez, Dunkerque et Sochaux, et Bastia et Toulouse. La rencontre entre Grenoble et Niort a été reportée.
Merci Quentin Cabanis. Retour à l'actualité rugby de la semaine. Philippe Spanghero, Julien Thomas, Alexandre Priam. C'était la liste des 42. Julien, un mot pour décrire cette liste ?
Mais j'avais dire tout simplement logique par rapport aux blessés, par rapport aux joueurs qui ont été performants dans les derniers matchs et dans les derniers mois, que Fabien peut-être voulait voir et intégrer avec ce groupe en cas de peut-être pépin avant Coupe du Monde. Donc pour moi, c'est une liste plutôt logique.
Philippe Spanghero, c'est une liste, on va vous demander le mot pour la qualifier, mais est-ce qu'elle est faite, taillée pour le Grand Chelem ?
Ouais, elle me paraît taillée pour le Grand Chelem, et puis elle est méritoire, j'ai envie de dire, parce que à la fois il n'y a pas de surprise, mais on sent que le staff a voulu laisser la place à des jeunes qui sont peut-être pas passés dans les échelons inférieurs, mais qui font un très bon début de saison. C'est le cas de Fabre, notamment, que j'ai en tête. Fabre, Léo Berdeux, Van Verberg, enfin voilà. Donc ces joueurs-là, donc ça montre quand même que la méritocratie en top 14, elle paye, que rien n'est figé. Donc ça permet de renforcer encore l'émulation. Et comme on le disait, on en a parlé un petit peu hier soir, mais c'est vrai qu'on peut se dire en voyant cette liste que le 15 de France a peut-être jamais eu autant de profondeur de banc à tous les postes. Quand on voit que des joueurs comme Boutier, qui s'était installé il y a à peine 18 mois titulaire au poste d'arrière, aujourd'hui sont en difficulté. Enfin, il y a des joueurs comme ça, certainement d'autres, mais c'est ce qui me vient en tête. Mais donc on se dit que on a beaucoup de chance, il faut que cette émulation elle reste positive et qu'elle tire tout le monde vers le haut, mais ça a quand même de la gueule.
Oui, des nouveaux, on va en parler dans un instant, mais aussi des absents. Par exemple, Kamicha.
Kamicha est absent, ouais. Effectivement. Il le disait, Anthony Boutier est absent.
Baptiste Serein
est absent. Tu as tout à fait raison. Quand on regarde un petit peu cette liste des 42, c'est vrai qu'il y a quelques noms comme ça qui viennent. Jalibert est blessé. Ouais. Il devrait postuler pour l'Italie. Hein.
Ouais, tout à fait.
On rappelle que ça, c'est le groupe pour préparer, c'est pour faire la Légion étrangère, en gros.
Voilà, sachant aussi que le Covid va venir perturber quand même le début de préparation, puisque les Toulousains, par exemple, touchés par le virus, ne pourront pas débuter le
stage. Dupont, Tamac, Baille, voilà. Gelon. Voilà.
Et effectivement, est-ce qu'il y a des oubliés, selon Julien Thomas et Philippe Spanghero? Julien, pour commencer.
Mais des oubliés,
non, mais des oubliés injustes, entre guillemets, ou que vous auriez mis, vous.
En parlant de mon poste, du coup, David Mélé, serein. J'ai trouvé que ça, son retour, puis surtout sa présence en équipe de France jusqu'à présent. Après, le comportement qu'il a eu peut-être avec le 15 de France dans le groupe, peut-être ne correspond pas avec ce qu'a vu Fabien Galthié, mais il aurait pu y être, et c'est peut-être un oublié. Voilà, mais Baptiste Couillou le mérite autant. Hein, donc voilà, c'est un peu entre deux, parce que tout le monde, je pense, excelle dans ce groupe qu'on a vu des 42 notifiés.
On évite démodé dans le 15 de France, Philippe Spanghero, ou pas ?
Non, c'est vrai que ben, les joueurs qui sont pas dans les heureux élus ben, pâtissent d'une concurrence qui est rude, parce que ben, on voit que la barre est placée haut quand on voit quand même le début de saison de Camicha. On peut se dire qu'en effet il aurait mérité d'y être, mais il faut regarder ce que font les autres aussi. Donc je crois que non, pour moi, il y a aucune surprise. Et puis Serein est quand même revenu un peu tard cette saison dans le groupe toulonnais. Il pâtit aussi d'une équipe qui est pas en grande forme. Donc, individuellement, tout s'explique. Et par contre, juste pour rebondir sur ce que disait. Sur ce que disait Alex sur la Légion étrangère, en effet, c'est vrai qu'il y en a une partie qui vont retourner dans leur club, mais je crois que c'est super important parce que c'est ce que voulait Fabien Galthié, ça, il faut le souligner. Je crois qu'on arrivera à être compétitif et potentiellement à postuler au titre de champion du monde en ayant ce réservoir d'une cinquantaine de joueurs de très haut niveau. Et on voit que les équipes qui dominent le rugby mondial, quand l'Angleterre a dominé le rugby mondial, c'est quand la fédération avait réussi à mettre tous les clubs d'accord et avait toujours à disposition un groupe de 50 joueurs qui partaient en tournée dans l'hémisphère sud avec 50 joueurs parce que ben, ces joueurs-là, finalement, même s'ils n'ont pas de temps de jeu, ils assimilent l'organisation du groupe, le projet de jeu, et quand on leur donne leur chance, ils sont tout de suite performants. Et c'est vrai qu'on a été surpris de voir des jeunes joueurs, notamment alignés en Angleterre lors du précédent tournoi, faire le match qu'ils ont fait. Mais c'est aussi parce que on leur avait permis de vivre un peu avec le groupe, de s'imprégner de la façon de travailler, de niveau d'exigence. Et c'est comme ça qu'on arrivera à être compétitif.
Et pour un autre débat, y a-t-il aussi dans la liste des joueurs qui méritent d'y être ? Ça, c'est, on peut faire un autre sujet.
Oui, et on me presse pour faire la Pro D2. Vous savez, la 18e journée qui s'est jouée hier, le conseil de classe, bien sûr, avec le verdict. Voilà, Alexandre, c'est à vous.
Et on va rappeler les résultats de cette 18e journée de Pro D2. Aix-en-Provence qui a battu Colomiers 27-20, 22-20 pour Aurillac face à Béziers, 33-6 pour Mont-de-Marsan face à Narbonne. Match nul entre Montauban et Bourg-en-Bresse. Oyonnax s'est imposé face à Nevers 19-8. La victoire de Carcassonne à Rouen 24-3 et de Grenoble à Bayonne 35-37 en faveur des Isérois. Un match reporté à Agen-Vannes. Et on commence par les avertissements.
Les avertissements, Philippe Spanguero.
Non. Je vous emmerde tous autant que vous êtes.
Hérétique ! Au bûcher !
Ils nous prennent vraiment pour des cons.
Y'a personne qui bouge ! Personne ne réagit ! On est à 10 mecs à mort ! Vous allez perdre, les gars. Je vous dis, vous allez perdre. Vous n'avez pas de soucis à vous faire.
Philippe, c'est à vous. Avertissement à
Colomiers. Alors, Colomiers, ça peut paraître surprenant parce que c'est une équipe qui reste dans le top 6, toujours en position de se qualifier pour les phases finales. Mais Colomiers, parce que depuis quelques journées déjà, même si c'était un match à l'extérieur ce week-end à Provence Rugby et que Provence est une équipe plutôt solide à domicile, Colomiers a décroché très largement là depuis quelques journées du très haut du tableau. Après 3 ou 4 journées, on avait eu le débat de Colomiers très gros prétendant à la montée en top 14. On avait parlé de la capacité de ce club à être compétitif en top 14. Enfin voilà, on avait d'autres discours concernant cette équipe de Colomiers. Elle a fait des contre-performances à domicile qui lui ont fait mal à la tête. Elle n'a pas la capacité à aller récupérer ses points laissés en route à la maison, à l'extérieur. Et donc aujourd'hui, c'est une équipe qui est sous la menace directe de Carcassonne, d'Aurillac pour sortir des 6. Et c'est très très loin de ce qu'on les a vu faire en début de saison.
Julien, l'avertissement de Julien.
Rapidement, je présume. Oui. Bayonne, parce que ils pouvaient accrocher avec une victoire à domicile les duos de tête qui sont Mont-de-Marsan et Oyo, et finalement ils ont perdu face à cette équipe de Grenoble avec un jeu, mais encore une fois la problématique ballon tombé, un peu d'approximation. Donc voilà Bayonne, parce que malgré la 3e place, n'a pas montré le statut à domicile qu'il devrait avoir.
Place au compliment.
Bah oui, bien sûr, allez-y.
En tout cas, bien joué.
Trop mignon.
Tu t'y attendais à ce scénario ?
Non, vous n'avez rien compris. Vous ne savez pas qui je suis.
Présentez-vous, les gars, qui je suis ? C'est moi ! Je suis un monsieur !
Compliment à qui, du coup, Philippe ?
Je sais plus, tu n'as pas gardé mon WhatsApp ?
Si, mais c'est...
C'est Carcassonne.
Voilà, c'est Carcassonne que tu as mis.
Ah non, mais je vais voir si tu suivais. Mais Carcassonne, ouais, mais bon. qui malheureusement, bon voilà, dans un contexte très particulier, je pense qu'ils le savent, les Carcassonnais sont allés chercher une victoire importante. Ils ont laissé eux beaucoup de points en route à domicile en début de saison avec beaucoup de blessures. Et là, ils recollent à quelques points de Colomiers, comme je viens de le dire, pour éventuellement jouer le top 6. Et c'est toujours une équipe qui arrive à performer avec un tout petit budget et de petits moyens. Donc, je voulais saluer leur retour au classement.
Et Julien Thomas? 30 secondes.
Et Bourg-en-Bresse, parce qu'ils sortent de la zone relégable, bien sûr, malheureusement, à la défaite de Rouen, mais surtout qui était sur une bonne série, qui est allé chercher quand même un match nul à Montauban, qui n'a pas eu de défaite à domicile jusqu'à présent, et qui est allé chercher ce match nul. Donc, une grosse performance de cette équipe bressane.
Place aux félicitations.
Bah oui.
C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp.
J'avais un fils. J'aimerais qu'il lui ressemble.
Ce mec-là, tu le largues au pôle Nord, sur la banquise, avec un slip de bain pour tout vêtement, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine, avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de pesos. Ce type-là est un professionnel.
Eh ben, vous êtes d'accord en plus. Donc, 20 secondes chacun. Grenoble, Philippe.
Ah ouais, Grenoble qui réalise le gros coup du week-end à Bayonne, avec bon, beaucoup de caractère. En plus, il n'y a rien à dire sur la victoire de Grenoble, qui a su à chaque fois reprendre le score et qui inverse cette spirale très négative dans laquelle ils étaient rentrés. Donc bon, voilà, le chemin est encore long du côté de Grenoble pour se rassurer et puis sortir de la zone rouge. Mais en tous les cas, c'est une victoire fondatrice pour ce groupe.
Ouais, t'es d'accord, Julien?
Ah ben complètement avec Philippe, c'est Grenoble qui à l'extérieur est libéré, qui joue un rugby parfait et surtout je pense que quand même c'est une équipe de Grenoble qui peut aller chercher quelque chose si elle joue comme ça pendant la seconde partie de saison.
Ouais, Grenoble qui s'est imposé hier avec un excellent Ange Capozzo, François.
Eh bien voilà.
Qui n'est pas appelé par le 15 italien.
Ouais,
par
ça on a italien. Compris, Alexandre.
Ah non, mais moi, ça me choque. Je suis désolé.
Ça l'a traumatisé.
Ah, moi, ça m'a traumatisé. Ouais. Je suis traumatisé.
Eh bien, voilà, il est traumatisé. On espère surtout que vous avez passé une bonne soirée rugby. C'est une journée un petit peu tronquée en termes de programmation rugby. Ben, on s'est quand même régalé avec ce match Ulster-Clermont, 34-31 pour les Irlandais. Pas terminé pour les Clermontois qui vont attendre, bien sûr, la bonne performance des Rochelais. Et puis, regardez demain Montpellier, etc. Merci Julien Thomas, merci Philippe Spanghero, merci d'avoir été avec nous en direct
sur Sud
Radio. Merci à tous les auditeurs Sud Radio, bien sûr, d'avoir été avec nous et d'avoir participé au 0826-300-300. Excellente soirée à vous. Jacques Pessis est à suivre. Restez bien, bien sûr, sur Sud Radio toute la soirée.